si j'ai le temps.
À Boulevard 102.1.
Bienvenue sur les ondes de Boulevard 102.1, l'émission d'En Jase, ton émission du midi, midi 1 exactement. On est ton émission d'actualité. Avec nous, tu sais, les nouvelles du jour. Et on analyse pour toi les grands dossiers. C'est clair qu'aujourd'hui, on parle de cette abolition de la taxe de l'essence pour un temps déterminé entre le 22 avril et le 7 septembre. Ça a été annoncé par Mark Carney. 10 sous de moins le litre à la pompe. Bonne nouvelle. 4 sous de moins pour le diesel. Bonne nouvelle pour nos agriculteurs, entre autres, qui demandaient un petit allègement fiscal. On va en parler avec Antonine Niacarini. On va également avoir Gabriel Giguère de l'Institut économique de Montréal avec nous aux alentours de 12h40 là-dessus. On est mardi, c'est Rémi Villemur qui va être avec nous pour sa chronique habituelle. On va revenir, entre autres, sur Donald Trump et son image de Trump en Jésus. Je vous bénis, chers Américains.
Il était en médecin.
Ouais, je sais, bien, c'est une drôle de médecine, par exemple, parce qu'il met la main sur le front et la personne guérit.
Oui, c'est ça, c'est une médecine holistique, je sais pas quoi.
OK, d'accord. Je vais te croire, Anto.
Croyez en tout ça, oui, croyez.
C'est ça.
Croyez. Ayez la foi. Ayez la foi.
On va aussi avoir un bon sujet de discussion, c'est par rapport à la DPJ que j'appelle cette usine à fabriquer des itinérants. On va parler de ça, les jeunes de 18 ans qui partent avec deux sacs de vidange, leur affaire d'un sac de vidange, bonne chance dans la vie.
Quand ils n'en ont déjà pas eu.
Exactement, Mylène Moisan qui a écrit deux textes intéressants, là, un la semaine dernière et un ce matin. C'est par rapport à des enquêtes d'une coroner et justement qui est très critique envers la DPJ. Là, le texte d'aujourd'hui, c'est par rapport à un jeune de 18 ans qui est tombé dans l'itinérance après justement avoir voyagé de centre d'accueil en centre d'accueil. On l'avait retiré de son milieu familial parce qu'il y avait de la violence dans son milieu familial et qui a fini bien chaud un soir à se tirer devant le métro de Montréal. Donc, on va parler de ceci. Puis Mathias Turcotte va nous arriver justement avec une piste de solution justement qui est à Montréal. Une nouveauté d'un organisme communautaire qui est très intéressante puis que pourrait nous inspirer là, nécessairement pour Québec. Il n'y a pas de doute là-dessus. 418-971-1021 pour nous joindre par texto. Je vous le rappelle, vous pouvez nous écouter via le blvd.fm avec la web radio, l'application BLVD 102.1 qui est disponible sur App Store et Google Play Store. Et si vous avez un écouteur intelligent, un haut-parleur intelligent, devrais-je dire, vous dites « Écoutez BLVD 102.1 » et on apparaît dans vos oreilles. Avant de passer au caucus avec Antonine Niacarini, segment qu'on a du lundi au jeudi de midi à 12h30. Pascal, on commence avec la taxe de l'essence, j'imagine, en actualité.
Ben oui, on attendait le point de presse depuis ce matin. On regardait ça, nous, on était attablés, Mathias, Maxime et moi, à savoir, bon, McCartney va annoncer quoi? Ben, c'est 10 cents de moins sur le litre d'essence, sur l'essence régulière, puis 4 cents du litre sur le diesel qui va être supprimé de votre facture. On veut un effet de réduction de facture, justement, à la borne à l'essence, mais c'est temporaire. Donc, la taxe d'assise fédérale sur le carburant puis le diesel, ben, c'est pour faire baisser le prix à la pompe dans ce contexte de guerre au Moyen-Orient. On l'a très bien dit que c'était temporaire pour Mark Carney. Je pense qu'il va falloir revenir là-dessus dans les prochaines semaines et surveiller le tout. Le panier d'épicerie, l'habitation, les services, c'est ce que titrent les médias, entre autres Radio-Canada, sur les priorités de Christine Fréchette. Et c'est ce qu'elle a élaboré. Son assermentation, c'est pour demain 16h. Les députés de la CAQ vont participer ensuite à un caucus en soirée. Et ce qui a coulé dans la presse au courant de la dernière heure et demie, c'est un peu plus de chair autour de l'os quant aux rumeurs. Puis on en parlera avec Antonine dans un instant, mais l'ex-grand patron du mouvement Desjardins, Guy Cormier, qui avait été, je pense, le messie pour la thématique d'aujourd'hui, pour plusieurs partis politiques, il est au centre de rumeurs pour la CAQ. Il a fait une vidéo pour rendre hommage à François Legault dans le congrès caquiste de dimanche. Et là, on apprenait aussi que le conjoint de Mme Fréchette, Guy Nadeau, c'est le vice-président de Desjardins Entreprises à Montréal. Est-ce que ça s'est jasé? Tiens, peut-être. Et son nom est sorti. Université Laval, Front commun contre l'opacité de l'administration d'Amour. Il y a des étudiants qui se disent, un, dans le malaise, deux, dans l'observation de décisions douteuse de la direction. C'est la rectrice de l'Université Laval qui fait face à un front commun. Donc, beaucoup d'associations étudiantes, des syndicats du campus qui parlent de cette non-transparence de l'administration de Sophie Damour. C'est dans notre cours et ça reste très important, je pense, parce que l'Université Laval va faire réagir, tu veux dire?
Oui, on va parler avec Maxime Coulombe, président du syndicat des professeurs de l'Université Laval à 13h30, justement. Il va nous parler de sa problématique avec la nouvelle politique de stationnement, l'abolition des cafétérias étudiantes et les deux projets immobiliers là, qui sont dans les cartons.
Et petite parole pour les libéraux de Mark Carney. Et on dit, les libéraux de Mark Carney n'ont pas obtenu une majorité grâce au vote des Canadiens. Ils ont obtenu une majorité avec des tractations en coulisses, avec des politiciens qui ont trahi les électeurs qui avaient voté pour eux. Ce sont un peu les premières appréhensions que l'on a à ce niveau-là. Mais Mark Carney est allé chercher sa majorité.
Les vrais enjeux expliqués simplement. Antonin Niacarini vous les sert clair, net et précis dans Le Caucus. On démêle ce qui compte vraiment. Comprendre, analyser, décoder. Voici Le Caucus de Boulevard 102.1. Disponible à tous les jours sur notre page YouTube.
Le Caucus avec Antonin Niacarini. Abonnez-vous à notre page YouTube BLVD 102.1. Vous allez pouvoir écouter Le Caucus en vidéo, tiens. Voir nos faces en studio, comment on interagit. Allez vous abonner en grand nombre. Le Caucus s'y retrouve à chaque jour. Antonin Niacarini, comment vas-tu?
Ça va très bien.
Hey, ça bouge en politique pas à peu près.
Écoute.
C'est fun.
C'est du bonbon.
On trippe. On commence avec cette réduction justement de la taxe de l'essence. 10 sous pour les contribuables, ceux qui ont un véhicule ordinaire, devrais-je dire. 4 sous sur le diesel pour les autres, notamment les agriculteurs. C'est dans une période prédéterminée. Ça a compté de lundi prochain, le 20 avril, et ça jusqu'au 7 septembre prochain. Un bon coup du gouvernement Carney?
Oui, honnêtement, les gens vont accueillir ça probablement très favorablement. C'est sûr que le désavantage, bien, c'est toujours une perte de revenus pour le gouvernement. Puis on sait qu'on a des déficits sur tous les paliers de gouvernement, mais en même temps, ils ont bien fait de le mettre de manière temporaire. Parce que quand tu enlèves une taxe, bien, en fait, ce que tu fais, c'est que tu donnes l'odieux à soit toi-même ou à quelqu'un d'autre de devoir éventuellement la remettre parce qu'on le sait que la situation en Iran n'est pas nécessairement permanente. Les prix peuvent fluctuer. Donc, on s'est mis une période. On verra probablement si l'automne prochain, la situation n'a pas changé. Bien, il y a toujours possibilité de rallonger la mesure comme telle. Puis, ça va avoir un impact sur un paquet de choses, un paquet de secteurs. Ça peut avoir un impact aussi sur le prix de consommation de certains produits. On va surveiller ça avec attention, mais le gouvernement fait un effort dans toute la chaîne, là, décide que bon, ben, c'est le gouvernement qui va faire un effort à ce niveau-là, ce qui va alléger un petit peu le portefeuille.
Ce que j'ai aimé, c'est qu'on fait cette annonce-là après les élections partielles.
Ouais, c'est... Oui,
ça aurait pu être vraiment très électoraliste de sortir, parce que Terrebonne, c'était serré, ça a fini par 731 votes, de sortir la semaine dernière et de dire « Savez-vous quoi? On a écouté les Canadiens. » Et on va réduire la taxe de l'essence. Mais non, on le fait après les élections partielles.
Mais en même temps, ça envoie un message. C'est « Bonjour, maintenant, on a notre majorité.
Ben » oui.
Rappelez-vous comment on est bon, justement. Puis oubliez donc qu'on est allé chercher une majorité à coup de transfuge.
Ouais.
Ben, une grosse nouvelle contre une grosse nouvelle.
Absolument, parce que quand j'ai vu ça ce matin, je me suis dit « C'est drôle, les titres sont bons aujourd'hui. » Il est écrit « Victoire, tour du chapeau. » gain, je me disais pourquoi ils vont tout de suite gaspiller un cycle de nouvelles qui est déjà acquis positivement pour eux. Mais en fait, c'est que ça, je pense qu'ils voulaient envoyer un message fort. Voici comment agit un gouvernement majoritaire. Et ce n'est pas parce qu'il n'aurait pas pu le faire comme gouvernement minoritaire.
Non, parce que les conservateurs auraient appuyé.
Ils sont d'accord.
D'ailleurs, la question des transferts a été posée en conférence de presse à Mark Carney, en entrevue aussi sur LCN par la suite à François-Philippe Champagne. Puis, je te laisse entendre comment il a contourné la question.
OK.
C'est que ça représente largement ce qu'on entend des Canadiens et Canadiennes à travers le pays. Moi, je vous dirais, M. Dumont, prenez une marche avec moi sur la rue, là. Vous allez voir, les gens comprennent exactement le plan qu'on a. Les gens voient comment c'est difficile dans le monde. Il y a un vent de face. Les gens sont unis. Ils disent, écoutez, c'est un moment sérieux. On a un gouvernement sérieux avec un chef sérieux.
Fait qu'il y a des transfuges parce qu'on est un gouvernement sérieux avec un chef sérieux. Dans un moment dans le monde qu'on n'a jamais vécu. Fait que c'est pour ça qu'ils transfèrent. C'est pas parce que nous autres, on est allés les chercher qu'on a fait du maraudage. Parce que Mark est tellement bon que les gens cognent à la porte.
Là, je vais donner quelque chose à François-Philippe Champagne. Ce qu'il dit est vrai, dans le sens qu'on l'entend beaucoup.
Ben
les
oui.
gens disent Thank God, on a un premier ministre qui est responsable, ça va bien. Ben, les gens l'appuient là, en ce moment.
De toute
on
façon,
le sent.
Dans les partiels d'hier, le score a augmenté dans les trois circonscriptions. Donc, c'est pas étranger au fait que les gens sont satisfaits à l'heure actuelle du travail de Mark Carney.
C'est ça. Puis il faut je pense, départager plusieurs choses, notamment le court terme et le long terme. Sur le court terme, ça va très bien pour les libéraux. Les gens sont pas insatisfaits, il n'y a pas de fronde. On pourrait se demander pourquoi les Québécois sont si contents compte tenu que M. Carney ne chouchoute pas particulièrement le Québec, ne se force pas tellement toujours à parler français, nous dit que notre histoire, il réécrit notre histoire. Mais pour l'instant, ça n'a aucune importance parce que la priorité des gens... C'est ce qu'il est en train de faire comme projet, c'est-à-dire transformer l'économie canadienne, bâtir des nouvelles alliances à l'international, essayer d'amoindrir les impacts de ce qui se passe avec les États-Unis. Et les gens se retournent vers l'alternative. Qu'est-ce qu'ils ont comme alternative politique? Ils ont un Pierre Poilievre qu'on a du mal à imaginer dans le même rôle.
Oui.
OK, c'est un défi pour lui. Bon. Ensuite, on a le Bloc québécois qui, depuis un an, nous dit... Arrêtez de capoter pour rien avec Donald Trump là, puis de faire un culte à la personnalité de Mark Carney. Tu sais, je veux bien, mais tu sais, même Paul Saint-Pierre Plamondon à Québec, là, il a été obligé à un moment donné de dire « Hey, vous avez raison, on comprend l'anxiété des gens, on vous parle d'un référendum, mais on sera pas fou, là, on va être responsable. »
En effet.
Mais lui aussi, pendant longtemps, avait banalisé la chose puis disait hey, « c'est des anxiétés un peu irrationnelles. » Mais il a décidé de légitimer l'anxiété des gens puis de dire « Je comprends, là, c'est valide. » Et après ça, ils ont quoi? Le NPD qui était, je veux dire, bon, on n'en parle même plus.
C'est ça.
Ils ont fait combien de votes hier? Attends, 249 dans Terrebonne en vote.
Fait qu'il
n'y en a pas d'alternative non plus. Fait que ce que M. Champagne dit, c'est vrai.
Ben oui, c'est vrai.
Maintenant, là, moi, je trouve qu'on commence à flirter avec quelque chose d'un peu dangereux. Gouvernement majoritaire égale stabilité. Oui, OK. Un premier ministre qui n'est pas à l'Assemblée, à la Chambre des communes, des oppositions qui sont affaiblies, des débats qui n'ont pas lieu.
C'est pas tant de la stabilité. Là.
Moi, je trouve que c'est de la stabilité à court terme. Ouais. C'est une illusion de stabilité. C'est malsain. Okay? Les oppositions, elles doivent pouvoir jouer leur rôle. Et le gouvernement, même s'il était majoritaire, minoritaire, M. Carney, il réussissait quand même à faire ce qu'il voulait faire. Okay? Il n'y a pas énormément de choses qui étaient limitées parce que les oppositions ne font pas d'obstruction.
Non, ben en plein ça, puis la question il a été posée en conférence de presse ce matin. Ils ont dit, écoutez, ce que vous annoncez là, matin, là, vous l'auriez annoncé même si vous étiez minoritaire.
Oui.
Parce que Pierre Poilievre aurait dit, ben oui, go.
Il aurait été d'accord. Mais je comprends qu'à un moment donné, je veux dire, ils ne sont pas fous, là. Tu viens de te garantir un autre 3 ans de gouvernement, tu as la paix, tu vas avoir tes comités vont être majoritaires, tu vas pouvoir avancer plus vite tes législations. Puis s'il y a des législations moins, bien accueillies de la part des oppositions, tu les passes pareil. C'est sûr que c'est mieux.
Ben oui, ben...
Mais là, tu sais, arrêtons de nous dire que c'est une question de stabilité. C'est une question de commodité pour les libéraux.
Bien sûr, question de commodité, il n'y a pas de doute là-dessus. Puis en même temps, je les comprends d'avoir travaillé à leur majorité. T'sais, si je fais juste regarder au plan politique, parce que c'est quoi qui nous parle, Mark Carney? Des grands projets.
Oui.
Des projets pour diversifier l'économie.
Mais il y a besoin de temps pour montrer
de temps,
des
y a
résultats.
Pas le choix.
Puis ça, c'est l'attaque des oppositions. C'est de dire, sont où les résultats? Mais tu sais, je veux dire... Qu'on soit libéral, pas libéral, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, ça arrive pas en 5 minutes, là, des résultats dans ce qu'on nous a présenté comme projet pour le Canada.
Puis dans le contexte, sûrement pas non plus. Tu l'as dit, tu l'effleures à chaque fois. On va aussi mettre beaucoup de lumière sur ce que Christine Fréchette va devoir accomplir dans un contexte vraiment court. Est-ce qu'on peut faire un pont commun entre les deux qui, dans la situation à ce moment-là, politique, ça peut être très difficile de garantir des résultats?
Bien, Christine Fréchette, c'est un tout autre dossier compte tenu qu'on parle en termes de semaines. Donc, évidemment, on
mais
est
dans
on
les
est ailleurs.
Enjeux, ouais.
Et aussi, sur la scène provinciale, on a beaucoup plus d'alternatives de partis politiques qu'au fédéral. Donc, M. Carney est beaucoup plus confortable comme tel. Maintenant, je dois dire, bien, bravo libéraux, parce que c'est une bonne opération de communication. Tu sais, en introduction, j'en parlais. Je vous dis, je vois des mots comme victoire, gain... tour du chapeau. Excusez, là, je veux juste être bien clair. Les trois partiels qui avaient lieu hier soir, c'était 3 comtés libéraux.
Ben oui.
C'est pas hier que la majorité a été acquise.
Non, c'est à coup de transfuge.
C'est quand Marilyn Gladue a décidé qu'elle traversait la Chambre et qu'on savait déjà qu'il y allait avoir 2 autres comtés supplémentaires qui allaient rentrer. Et Terrebonne, ben on le savait pas parce que c'était serré. Mais hier, c'était comme, tu sais, c'était un bon moment pour eux pour l'avoir leur majorité parce que tout le monde est en émission spéciale, puis là, c'est en direct, puis là, tu vois des gens qui mettent des petits votes dans des petites boîtes. Puis là, ça a l'air bien démocratique. Mais dans les faits, c'est pas ça le moment clé. Ils sont allés rechercher des comtés qu'ils avaient déjà.
Ben oui.
C'est les transfuges qui ont fait la différence. Et honnêtement, le danger, c'est que, tu sais, ce qui est important pour lui à court terme, c'est d'aller chercher sa majorité. Mais à long terme, ben, il y a un enjeu démocratique parce que les Canadiens ne lui avaient pas donné un gouvernement majoritaire. Bon, il est plus haut dans les sondages, ça peut justifier. Mais l'autre problème, c'est quoi les valeurs du Parti libéral? Parce que je veux juste vous dire, là, en ce moment, là, il y a Stephen Guilbeault et Marilyn Gladue qui sont assis à la même table. C'est quoi le rapport? C'est quoi le Parti libéral?
Je suis tellement contente que tu abordes le cas de Stephen Guilbeault parce que, pour moi, je les mets dans le même panier, Gladue et Guilbeault, et je t'explique pourquoi. Bon, Marilyn Gladue, elle a rien d'une libérale, là.
Non.
Elle est contre l'homosexualité puis l'avortement. Mm-hmm. OK, bon, fait qu'elle a rien d'une libérale. Stephen Guilbeault est assis là, donne la majorité en levant la main sur des projets de loi, alors que il se reconnaît plus pantoute dans ce parti-là. Il a sacré son camp du Conseil des ministres.
Exact. Mais quand ça va bien, Jeff, là, tout le monde avale des couleuvres.
C'est ça, hein?
Quand ça se remet à descendre dans les sondages, là, quand c'est moins drôle, là, puis que la lune de miel est passée, tout ça, là, ça se détricote, là, prrr, tout un coup. Regarde ce qui s'est passé à la CAQ. Hein? Il y avait un petit peu de tout pour tout le monde, du monde qui n'avait pas rapport ensemble.
En effet.
Quand ça se met à détricoter, ça détricote vite. Mais maintenant, ils sont majoritaires. Donc, là, ils sont beaucoup plus confortables. Et pour les oppositions, je veux dire, c'est extrêmement compliqué, là. Pierre Poilievre, il n'y a pas de punk depuis un an. Ça fait depuis que Justin Trudeau a annoncé qu'il s'en allait, qu'il ne sait pas comment se comporter.
On dit toujours, me semble, c'est toi qui nous avais dit ça, ça prend un méchant en politique, ah. Là, ça te prend un méchant à attaquer, puis là, il n'y en a plus de méchants.
Il n'y a plus de méchants à attaquer. Hier, dans Terrebonne, d'ailleurs, les conservateurs, 3,3 % le résultat. On peut penser qu'il y a pas mal de conservateurs qui ont dit, ben, je vais voter pour le Bloc, pour bloquer la majorité de M. Carney, mais quand même.
Ouais, mais
ça va pas très bien.
J'ai entendu. Moi, le fait aussi qu'on parle énormément des transfuges, mais que ça dérangeait pas trop l'électorat conservateur parce que, anyway, t'sais, dans Terrebonne, il y en a qui ont voté aussi pour Mark Carney.
C'est possible aussi. Il y a des gens en ce moment. Mais on est vraiment dans une période où c'est un peu difficile de définir chacun des partis politiques. Et je pense qu'à plus long terme, ça va finir par créer une problématique pour M. Carney, mais quand tu es en politique, tu dois gagner la journée. Okay? Le plus tard, là, tu t'arrangeras là, avec ça.
Puis là, ils ont gagné la journée en tabarouette.
Ils l'ont gagné.
C'est quoi le gain d'abord de pouvoir, je sais pas, accepter des candidats très conservateurs là, comme Mme Gladue du côté des libéraux? Parce que c'est sûr, il y a un gain, mais en même temps, ça se dénature. En ce moment, c'est plus ça qui nous apparaît. Voyons, c'est ça dénaturer. Donc, devenir majoritaire, c'est un gain pour Mike Carney où il paye une facture de se dénaturer qui estime plus faible que celle d'être majoritaire. Je cherche qu'est-ce que ça va lui donner d'aussi important.
Bien, c'est sa majorité. Puis ça veut dire qu'il y a 3 ans de plus devant lui. C'est extrêmement payant. Mais comme tu dis, c'est à crédit. Éventuellement, tu sais, il va avoir des intérêts à payer là-dessus.
Exactement.
Là. Puis, tu sais, Marilyn Gladue, là, à Mané, là, il va avoir un problème.
C'est
sûr. Elle va te dire quelque chose, ça marchera pas. Puis là, M. Carney, il flotte par-dessus tout le monde là, en ce moment. Là. C'est la grande lune de miel. Puis c'est juste ça, le socle commun en ce moment du Parti libéral. C'est lui. T'sais, j'entendais M. Blanchette au Bloc, je ne suis pas toujours convaincue de leur message clair en ce moment, mais il n'y a pas tort quand il dit que c'est un culte de la personnalité. Là.
Ah, ben
c'est
oui.
On suit Marc. Là. C'est ça là,
ben oui.
Qui se passe en ce moment. Puis au niveau démocratique, je m'excuse, mais les électeurs sont pas particulièrement respectés là, quand on fait traverser des conservateurs comme ça. En tout cas, je trouve que c'est très discutable et je n'accepte pas qu'on dise que M. Carney est allé chercher sa majorité avec des partiels. C'est
moi non
faux.
Plus. Je suis entièrement d'accord avec toi. Tu viens d'aborder Yves-François Blanchette. Il va arriver quoi avec le Bloc québécois?
Écoute, premièrement, l'élection d'hier, c'est une grosse claque d'en face.
Bien,
là, ils vont essayer de la minimiser, là, mais s'ils l'avaient gagnée, ils l'auraient maximisée.
Oui, oui, okay? Mais c'est une grosse claque d'en face parce que, tu sais, le Bloc a moins de députés qu'il y en avait avant l'élection du 28 avril dernier. Là, on vient de perdre dans Terrebonne. Bon, il y en a qui vont dire, hey, c'est juste une marge de 731 votes. Oui, mais il faut savoir si c'était un vote de différence la dernière
la
fois.
La dernière fois, c'était plus serré. C'est moins
ça.
Serré. Le Bloc, l'année dernière, était dans une position presque aussi inconfortable que Pierre Poilievre. Okay? Il faut le dire. C'est juste que le Bloc bénéficie un peu T'sais, les gens ne savent pas trop. Ils regardent les conservateurs, ils trouvent qu'ils sont débiles. Ils regardent les libéraux, ils disent « je ne suis pas capable de voter pour eux autres ». Fait qu'ils se disent « bon, je vais voter pour le Bloc ». Donc, mais ils ont quand même perdu pas mal de plumes. Ils ont perdu des comtés dans les couronnes, Laurentides, Montérégie, notamment, Lanaudière, qui ont été toujours des terreaux assez fertiles, que ce soit pour les partis nationalistes au provincial ou au fédéral, que les libéraux soient allés chercher des gains, là, tu sais, dans Longueuil, là. Tu sais, Natilien Joseph.
Ah, c'est ça.
Je veux dire, ça a été gaffe par-dessus gaffe pendant la campagne. C'était pas, excusez, c'est pas un CV extraordinaire. Puis il est allé prendre un comté à un bloquiste très, très motivé, assez connu quand même, M. Trudel. Donc, c'était pas des bonnes nouvelles pour le Bloc déjà l'année dernière. Mais la très mauvaise nouvelle pour le Bloc, c'est qu'un an plus tard, rien n'a changé, là. OK?
Exactement.
La balloune n'a pas dégonflé. Même si on n'est plus dans Trump à toutes les cinq secondes, ils n'ont pas été capables de monter leur score, au contraire. Puis c'est sûr que ça paraît mal quand tu t'es battu jusqu'en Cour suprême pour faire une élection puis d'avoir un résultat moins bon que la dernière fois. Il n'y a personne qui va dire que c'est une bonne nouvelle, là, je m'excuse. Donc, je trouve que le Bloc, en ce moment, est dans une période très difficile. Puis si c'était un autre parti, le chef serait sur la sellette en ce moment. Mm-hmm. Les gens diraient « ça marche pas, là ».
Ouais.
Mais c'est le Bloc. T'sais. Fait que le Bloc, vu qu'on ne s'attend pas à ce qu'il gagne une élection, puis on ne sait pas c'est quoi une victoire du Bloc, objectivement. C'est quoi?
Le savent-ils?
Mais c'est quoi? C'est-tu 10 députés?
Non, en effet.
20 députés? 30 députés?
Comment ils pensent qu'ils défendent assez le Québec, mettons?
C'est ça. Quels gains ont-ils fait? T'sais?
Ils vont toujours être capables de twister ça pour faire croire que c'est une victoire. Hey, on n'est pas loin de la balance du pouvoir.
Ben oui. On est quand même chanceux des avoir, t'sais, dans certaines situations.
Absolument.
Là,
c'est juste que c'est juste flou. Oui. Les indicateurs de performance ne sont pas clairs.
À quel moment ils ont un pouvoir?
Puis, tu sais, Yves-François Blanchette, ça commence à faire un petit bout de temps qu'il est chef.
Ben,
okay?
Y a-tu quelqu'un d'autre ou dans les parages qui pourrait.
Ben oui, je pense qu'il y a des députés qui sont très forts, puis il pourrait avoir d'autres gens qui veulent reprendre. Mais cela dit, il n'est pas dans la chenoute, là,
non,
François Blanchet. Mais c'est vrai qu'il y a moins l'effet de nouveauté. C'est parce que M. Blanchet arrivait aussi après une série de déboires là, pour le Bloc, là, Martine Ouellet.
Exactement.
Pour ne pas la nommer.
Énormément de
Donc,
déboires.
Il est arrivé un peu comme un sauveur, tu sais, puis c'est un bon communicateur, somme toute, même si je trouve qu'il parle beaucoup, des fois, pour dire des choses qui pourraient être plus simplement apportées. Mais c'est un bon communicateur, c'est un gars qui a de l'expérience, et son caucus est très uni autour de lui. Mm-hmm. Si c'était n'importe quel parti, avec les résultats dans les dernières élections,
en effet.
Je pense qu'il serait un petit peu dans une situation plus périlleuse comme telle. Puis, honnêtement, ils font un bon travail sur plusieurs dossiers. T'sais, on a parlé des chauffeurs à rabais ensemble à quelques reprises. Le député Xavier Barsalou-Duval a fait un bon travail pour essayer de mettre ce dossier-là sur la map. Sur Curam, ils font un bon travail. Mais ils ont de la misère à percer le mur du son. Hein? On les voit pas tant que ça là, dans les médias au Québec. Ils réussissent pas à
en
se
effet,
positionner depuis
pas
un
Pas du
an.
Tout. On verra avec l'élection provinciale aussi, à savoir ce qui va arriver avec le PQ. Ça pourra nous donner un bon indicateur. Vous êtes dans le caucus avec Antonine Iaccarini, segment de midi à 12h30 du lundi au jeudi dans l'émission On en jase. Bon, en tout, parlons de notre nouvelle première ministre, Christine Fréchette, qui donnait son premier point de presse hier. Tes premières impressions?
Écoute, j'ai pas été impressionnée.
C'était plate.
OK, c'est un petit peu plate. En même temps, est-ce que les gens ont envie d'un petit peu plus de platitude? C'est possible. Regarde, Charles Milliard n'est pas là, un bout en train de tous les instants non plus. Mais je m'interroge, puis je vais vous poser la question, je vous la renvoie. C'est quoi le message de Christine Fréchette depuis dimanche?
Bien, écoute, j'ai cherché beaucoup, beaucoup, beaucoup aujourd'hui en réécoutant la conférence de presse. J'ai regardé justement dans les projets qu'elle promettait, dans ce qu'elle voulait pas faire. J'ai pas vraiment trouvé quelque chose de clair, à part qu'elle veut ramener les nationalistes.
Bien, notre parti, c'est le parti du nationalisme et de l'économie. On est le croisement de ces deux éléments-là, puis on est le seul parti à être au croisement de ces deux éléments-là, qui sont d'importance parce que ce sont ceux qui représentent le mieux les Québécois. À mon point de vue, les Québécois sont majoritairement nationalistes, sont très majoritairement en faveur du développement économique, et c'est ce que nous sommes. Le Parti québécois, de son côté, est souverainiste. Donc, nous, on est plus large que ça, on est nationalistes. Eux sont souverainistes.
Ah, je suis convaincu tout à coup.
Bien, là, attends, parce que sur le fond des choses, je sais que tu vas avoir des choses à répondre à ça, mais sur la forme, je veux juste dire que c'est pas un mauvais message. C'est juste qu'il est noyé par 60 000 autres messages.
En effet.
Parce que c'est vrai. Ce qu'elle dit, c'est vrai, Jeff, puis là, tu vas me dire, je suis convaincue, fait que je veux te laisser t'expliquer. Là.
Vas-y.
Mais la majorité des gens sont nationalistes, oui, mais non souverainistes en ce moment au Québec. C'est un fait.
Oui, sauf que là, deux mois, Charles Milliard, il a dit « Je suis nationaliste, nous sommes le parti de l'économie et nous sommes le parti de la saine gestion des finances
T'as
publiques. »
T'as un point, c'est juste que c'est pas vrai qu'ils sont nationalistes. Je m'excuse.
Je le sais, mais...
C'est de bon ton de dire ça, Mais dites-moi, concrètement, langue, immigration, laïcité, mm-hmm. qu'est-ce que ça veut dire? Puis je vais t'arriver avec la conclusion qu'ils ne le sont pas.
Ah, je sais, je suis entièrement d'accord avec toi. La problématique, puis je rejoins la chronique d'Antoine Robitaille aujourd'hui dans le Journal de Québec, c'est que j'avais l'impression d'entendre une chef du Parti libéral hier.
Bien, les gens ont beaucoup de difficultés à faire la différence. Puis je voyais Michel David, notamment, du Devoir, qui disait que ce discours aurait pu être prononcé par Charles Milliard. Ça va être un problème.
Oui, ça va être un problème.
C'est encore un chevauchement que tu évoques depuis le début de la chronique, mm-hmm. autant dans l'électorat que dans ouais. les positions.
Ben, ouais. La raison pour laquelle ça va être un problème, c'est parce que la CAQ était forte quand elle est allée chercher des votes au PQ.
Oui.
Puis là, on écoute Christine Fréchette, puis on entend le Parti libéral.
On a l'impression qu'on va aller chercher des électeurs plus libéraux.
Oui, mais ça n'arrivera pas.
Je sais pas, parce que honnêtement, je regardais dans les sondages, puis chez les sympathisants libéraux, effectivement, il y avait une certaine cote d'amour pour Mme Fréchette. Mais la vraie bonne stratégie, c'est de se dire que le PQ va redescendre.
Ouais.
Puis d'aller rechercher les votes nationalistes.
En plein ça.
Mais on va voir. Mais puis je te repose la question, Pascal. En un mot, qu'est-ce que tu retiens de l'arrivée de Pascal Fréchette, nouvelle première ministre? Qu'est-ce que l'histoire va retenir?
Je retiens Radio-Canada parce que c'est eux qui m'ont donné un peu plus d'informations sur ses priorités.
Ah, bon.
Fait que c'est panier d'épicerie, habitation, service. Il a fallu gratouiller. Puis c'est là où je te rejoins complètement.
Parce que ça, c'est un autre message que je trouve quand même positif, la question d'alléger le portefeuille. Parce que mm-hmm. là, tu m'as dit, j'ai fait un appel aux nationalistes, chef.
Oui.
C'est un bon message. Je veux alléger le portefeuille des Québécois. C'est un bon message.
Oui.
C'est deux bons messages, mais déjà, tu en as deux.
Mm-hmm.
OK? Mais là, en plus, tu commences à commenter. Évidemment qu'elle a eu 1000 questions dans sa tournée d'entrevue sur comment elle allait composer son conseil des ministres. Là, je veux juste dire là, que soit t'en parles, soit t'en parles pas. OK? Elle a décidé qu'elle allait présenter son conseil des ministres la semaine prochaine. Donc, ta tactique de communication pendant tes entrevues, là, c'est de dire « Je ne vais pas parler du conseil des ministres cette semaine.
Mm-hmm. » Mais tu vois, voici sa réponse hier en conférence de presse par rapport au Conseil des ministres.
Il faut prendre en considération les besoins des Québécois, la capacité du gouvernement de prendre action, les compétences des gens concernés, le changement qu'on veut incarner, la question de la parité. Moi, je voudrais être en zone paritaire, ça c'est certain. Et également la représentativité des différentes régions. Donc,
il y en a des éléments.
C'est un exercice qui est difficile, complexe
ah, ouais.
et qui sera d'impact.
Okay.
Et qu'on a entamé, je vous dirais, mais on n'a pas encore complété cet exercice-là.
Ben non,
c'est sûr qu'il y a plusieurs versions qui vont exister. Malheureusement, on ne pourra pas intégrer tout le monde que l'on voudra intégrer.
Plusieurs
ça, c'est
versions.
Malheureux, ouais. mais c'est la réalité dans laquelle on se trouve.
C'est malheureux.
Alors, je n'ai pas encore de date pour vous, pour ce qui est de la composition de ce conseil.
Plus plate que ça, plus politicienne que ça, ça se fait pas, là.
Bien, en fait, tant qu'à être plate de même, soit vraiment plate.
Bien, tu sais, exactement.
Je suis pas prête à vous parler de mon conseil des ministres. Prochaine question. Moi, aujourd'hui, j'ai des mesures à présenter. Vous allez me laisser faire mon conseil des ministres de mon côté. Merci. Puis, troisièmement, là, c'est compliqué. Ouf, c'est dur. Hey, c'est malheureux. Hey, t'es-tu contente d'être première ministre, là?
Bien, c'est Voyons. Ça. T'es quelqu'un qui veut redonner une chance à la CAQ, mettons. Là.
Hey,
puis, tu sais, pour de
ah,
vrai,
ouais, là,
je pourrais faire partie de ces électeurs-là. Je suis orphelin politique à l'heure actuelle au provincial.
Un cœur à prendre.
Donc, je suis un cœur à prendre. Je suis un cœur à prendre pour la souveraineté. Je suis un cœur à prendre pour le camp du Nord.
Ça, non, là, arrête avec ça. Là.
Ben non, mais c'est vrai.
Non, non.
Tu me dis que la souveraineté va marcher au niveau économique, j'embarque.
Ouais, moi, je suis non.
Je te le dis.
Moi, je t'ai pointé adversaire dans mon pointage. Puis
je
perds plus de temps à essayer de te convaincre.
Mais bref, tu sais, je suis un cœur à prendre. Quand j'entends des réponses de même, j'ai le goût de me sauver en courant.
Ben, c'est ça.
Puis d'aller m'asseoir avec Charles Milliard, Éric Duhaime ou PSPP, de leur dire « Parlez-moi ».
Puis c'est cruel, Jeff, parce qu'elle n'est pas mauvaise, là.
Non, 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 non.
OK? C'est bien correct. C'est juste que c'est un moment super crucial pour la CAQ, là.
Elle ne mettra pas le feu.
Non.
Puis ça prend quelqu'un qui va venir rechercher un peu par les émotions. Parce que, tu sais, quand elle dit « Je suis le parti de l'économie avec les décisions de la CAQ dans les quatre dernières années », tu sais, je regarde les textos qui rentrent.
Oui, mais elle n'a pas le choix. Mais elle n'a pas le choix de continuer
à
le dire. Oui, mais elle n'a pas le choix de continuer à le dire. En plus, c'est une de ses forces. Puis les gens le savent qu'elle est plus studieuse que M. Legault qui était pressé des fois, puis ça allait un petit peu vite. Donc, moi, je pense qu'elle a un bon message. C'est juste que c'est pas clair, c'est noyé dans plein d'affaires, puis c'est dans l'attitude. Ça, moi, je trouve que malheureusement, ça renforce l'étiquette que M. Drainville lui avait mise
ben oui.
d'être hésitante.
Mm-hmm.
Là, il faut être un peu plus catégorique. Puis la fenêtre qui s'est ouverte du moment où est-ce que son nom est apparu sur l'écran, là, dimanche, là, à la nomination du Conseil des ministres, c'est une fenêtre importante. Il faut que tu envoies un message clair. Là, commencer à dire... C'est parce qu'à chaque entrevue qu'elle a faite, ça fait une nouvelle...
Ben là, c'est parce qu'à chaque entrevue qu'elle a faite, elle a fait... Ah oui, Simon-Jolin Barrette va être dans le Conseil des ministres.
Là, ah autre... ben non, il sera pas leader.
C'est ça. Là, autre entrevue. Ben oui, il savait bien qu'on va faire de la place à Bernard. Là, autre entrevue. Ah ouais, savez-vous quoi? Il pourrait avoir des non-élus. Là, on s'en va où, là?
Puis là, on a appris dans une autre entrevue que c'était pas nécessaire de se représenter pour être dans le Conseil des ministres. Hey, là, arrêtez de partir des nouveaux cycles de nouvelles à chaque entrevue.
Exactement.
C'est quoi le message cette semaine, tu sais? Puis je trouve que c'est un petit peu une occasion manquée. Puis on le sait que chaque semaine, comme première ministre de Christine Fréchette, est cruciale. Mais celle-ci, là...
C'est sûr!
C'était la plus cruciale.
Moi, hier, là, la réponse plate de politicien que j'ai fait entendre, là, moi, hier, j'aurais résumé en 12 secondes et quart.
Ah oui, vas-y.
Conseil des ministres, parfait. Savez-vous quoi? Ça va brasser en crime. Parce que la CAQ, là, si on regarde dans les sondages, là, on a perdu complètement la confiance de l'électorat. J'ai un mois pour leur gagner cette confiance-là. Checkez-moi bien avec mon nouveau conseil des ministres. Puis, by the way, il risque d'avoir des non-élus. Next question.
Bon, tu vois, venant de toi, ça fait... Mais j'imagine pas du tout Christine Fréchette dire ça. Il aurait fallu qu'elle le trouve à sa sauce.
Ouais, en effet.
Ça va brasser, tu sais, puis on a mal, tu sais, je l'imagine moins, mais de dire quelque chose de clair, net, précis comme ça et de marteler ton message. Et tu sais, nous, là, on n'aime pas ça quand les gens martèlent leur message parce qu'on trouve ça plate. En passant, moi, je prêche contre ma paroisse, là. À chaque fois qu'à part un nouveau cycle de nouvelles, j'ai 6 chroniques qui s'ajoutent dans mon agenda. Ça va super bien, là.
En effet.
Moi, je l'essaie juste de mettre à leur place, puis je me dis, t'essaies de remonter la CAQ. Le temps est précieux. Il faut que ta flèche arrive dans le milieu de la cible.
Ben oui!
Puis le discours de dimanche, il était correct, là. Puis honnêtement, là, moi, là, vous montez sur une scène, puis il faut que le monde applaudisse au bon moment, puis c'est dur. Oh, okay? Non, imaginez-vous non. Un instant faire
mais
ça,
je
là.
Je suis de la génération X pendant 3 minutes.
Mais c'est
un
moment...
On a ouvert les fenêtres du printemps.
Je vais vous conter une anecdote avant de finir.
Croustillant, on est là.
Croustillant, course à la chefferie du PQ 2014-2015, c'est Pierre-Carl Péladeau qui l'a remporté. Pierre-Carl Péladeau... Pierre-Carl Péladeau, c'était pas un grand orateur.
Ah non, vraiment pas. Je l'ai vu donner des conférences de presse. C'est tough.
C'est tough. Mais je dois dire que ce soir-là, son discours de victoire, ça paraissait que ça avait été travaillé, pensé, chaque mot. Puis je sais qui a travaillé sur son allocution. Moi, je n'étais pas dans son équipe. J'étais dans l'équipe d'intérim, fait que j'étais neutre. Mais... Et je sais le travail qu'ils avaient mis là-dedans parce qu'ils savaient que c'était un moment historique. Bon, ça a fait pouet-pouet Pierre-Carl parce qu'il est parti finalement. Mais... Tous les yeux étaient tournés vers lui, même les yeux à l'international, parce qu'un homme d'affaires connu du Québec devenait chef d'un parti séparatiste. Vous comprenez, ça intéressait le Canada anglais, puis ça intéressait même au-delà des frontières du Canada.
Homme d'affaires dans les médias aussi.
Donc, il ne pouvait pas manquer son coup.
Oui.
Et il a pesé chaque mot. Il y avait même une partie de son discours qui était en anglais. Il y avait un message pour les anglophones. Il y avait un message qui concernait les peuples autochtones aussi. C'était réfléchi. J'ai pas eu cette impression dimanche avec Mme Fréchette qu'ils ont peut-être compris l'ampleur historique que ça avait quand même.
En effet, deuxième femme première ministre,
ben oui.
Première chef de la CAQ. Et ils l'ont vraiment pas compris parce que voici le début de son discours.
Vous avez voté pour un autre style de leadership. Pour qu'une nouvelle génération soit à la tête du Québec. Oui, je fais partie de la génération X. Voilà. Une génération résiliente, pragmatique et capable de transformer les défis en solutions concrètes. Une génération qui comprend les aspirations des plus jeunes, tout comme les inquiétudes de ceux qui les ont précédés.
Ouais.
C'est correct. Mais
c'est pas suffisant pour monter à CAQ.
Non, puis pour vrai, l'angle de la génération, j'ai
moi, j'ai pas compris ce là tu veux.
Oui, parce que...
J'ai pas du tout compris là, la part pour qui, là,
mais c'est
te
ça.
Dire
enfin...
ça.
Non, c'est ça.
Qui s'y reconnaît plus, parce que Mme Fréchette a dit ça. Antonine, est-ce que c'est parce qu'il voulait pas trop déranger, parce qu'il savait que c'était pas une élection sur la personne, mais bien au sein de la CAQ et avec les membres?
Je le sais pas, honnêtement. Moi, je ne peux que commenter le résultat. J'ai trouvé qu'on était passé à côté de quelque chose cette semaine.
Moi aussi.
Et encore une fois, c'est ingrat. C'est dur, là.
Ouais.
Elle, là, je veux dire, il y a 6 mois, personne ne la voyait là. Elle est première ministre du Québec.
En effet.
Puis elle a fait un bon travail pendant la campagne. Elle a fait des bons débats. Mais là, pour sa tournée d'entrevue puis le discours, tu sais, c'est B+, mettons.
Bien, c'est parce que les Québécois ont besoin de voir quelqu'un qui va aller se battre.
Mais c'est parce que la pente est tellement abrupte.
T'sais, j'écoute Christine Fréchette, puis j'entends François Legault, moi, les jokes.
Tu t'ennuies des jokes?
Ben au moins, j'avais François avec des jokes.
Mais pas François avec les enfants.
Non, on s'en est pas
ça. Encore. Fait que c'est ça. Moi, en tout cas, ça m'impressionne pas du tout. C'est ma propre opinion. Moi, ça serait plus un « c'est
moins ».
Puis
en terminant, tu l'as dit tantôt, mais on nous parle de peut-être ministre non élu. Je tiens à dire qu'on en a jasé hier.
Oui, vas-y. Hein, ben
vous
oui.
l'aurez entendu ici avant que la presse et tous les autres
Tu nous avais parlé de quelqu'un du milieu des affaires, l'économie.
Milieu financier.
Attends, je vais réfléchir. Guy Cormier!
Donc, le nom est sorti aujourd'hui. Je fais toujours attention parce que, tu sais, de se faire mettre sur la sellette comme ça, sans
correct.
Ton consentement, moi, je fais attention. Mais là, le nom a commencé à circuler plus sérieusement. On l'a entendu aussi circuler pour faire la chefferie de la CAQ, mm-hmm. carrément. Son nom avait même circulé pour la chefferie du Parti libéral.
Oui.
Encore là, il y a une petite confusion. Mais
c'est ça.
on revient un peu à la même problématique. Des ministres non élus, en passant, c'est assez rare au Québec, mais ça peut arriver.
C'est arrivé avec François Legault.
C'est arrivé avec François Legault dans le Conseil des ministres de Bernard Landry quand il a succédé à Jacques Parizeau. C'est quelque chose qui a eu lieu. C'est arrivé au fédéral aussi, Michael Fortier, que vous connaissez
peut-être.
Oui, c'est vrai,
je me souviens.
On voit des fois dans certaines mm-hmm. émissions de télévision, a été aussi ministre non élu sur la scène fédérale. Ça peut montrer que tu es capable d'aller chercher des nouveaux visages. Parce que quand tu essaies de faire du neuf avec du vieux, c'est sûr que c'est plus difficile. Fait que ça pourrait. Mais en même temps, c'est un risque aussi parce que... Ben, je veux dire, le risque de couac est peut-être un peu plus élevé.
Tant qu'à mettre quelqu'un qui ne se représente pas comme Sonia Lebel, Geneviève Guilbeault, c'est bien mettre un non-élu.
C'est pas fou.
Tu sais, si tu mets Guy Cormier puis Olivier Primo, tiens, qu'on a parlé hier là, au Conseil des ministres, ça a pas mal plus d'impact.
Je pense pas qu'Olivier va aller là.
Ça a pas mal plus d'impact que Sonia Lebel puis Geneviève Guilbeault.
On s'entend,
hein?
Ça, au moins, ça a l'avantage qu'on essaie quelque chose qu'on ose.
Oui.
Donc, c'est pas beige.
Ben, ça a l'avantage d'attirer le regard.
Ouais.
D'attirer les gens.
Ça va nous faire jaser si ça arrive. Alors.
Imagine, moi, ça m'attirerait peut-être vers. Comme ça m'attire.
Mais
comme...
qu'est-ce qui t'attirerait vers?
Comme PSPP m'attire vers la souveraineté.
Mais ça t'attirerait vers la CAQ?
Ben, c'est parce que, tu sais, honnêtement, Guy Cormier, c'est une personne qui est très ferrée, très compétente au niveau économique, au niveau finance. Donc, tu sais, moi, je porterais une attention particulière à une candidature comme ça. Il n'y a pas de doute là-dessus. Là. Je trouverais que la CAQ se renouvelle.
Ça suscite l'attention.
Oui. Est-ce que je voterais pour la CAQ?
Mais c'est vrai parce que le monde n'écoute plus la CAQ. Est-ce que ça amènerait une écoute? Tu sais, l'arrivée d'un nouveau chef, déjà, ça ouvre un peu les perspectives.
Oui.
Puis là, d'avoir des nouveaux visages au Conseil des ministres.
Exactement.
Avec quelqu'un d'aussi crédible pendant que les autres ont quitté le bateau.
C'est ça. Oui, autant mieux entendre Guy Cormier me parler d'économie que Jean Boulay.
Mm-hmm.
Hein?
Yeah.
On est d'accord?
Mm-hmm.
Ah, je savais qu'on terminerait d'accord. C'est le caucus avec Antonine Iacarini. On a fait un peu d'extra aujourd'hui. Et Antonine, tu fais de l'extra parce que tu vas être dans le retour.
Oui, tout l'après-midi dans le retour aussi.
Yes, avec les girls.
Avec
Denis Gravel est en congé. Donc, trio de girls. Audrey Pinchot, Véronique Bergeron et Antonine Iacarini. Audrey nous a envoyé le line-up. Vous allez notamment parler de d'Hongrie et d'Iran avec Éric Sauvé à 16h30.
C'est bien la Hongrie hein, et pas les l'ongle gris.
Oui, exactement. Je l'ai mal dit. Hein. À 17h, Élise Berger-Pelletier va venir nous parler d'actualité en santé, urgentologue que vous entendez régulièrement. Il y aura SOS Nancy qui va être là aussi et Alex Leblond pour sa chronique financière actualité. Donc, manquez pas le retour des girls. Véro Bergeron, Audrey Pinchot et Antonine Iacarini. À tantôt!
À tantôt!
Après la pause, on jase avec Gabriel Giguère justement de cette diminution de la taxe de l'essence annoncée par le gouvernement fédéral. Et on va parler de cette DPJ qui est une usine à construire des itinérants. Restez avec nous à l'émission On en jase sur Boulevard 102.1.
Jusqu'à offerte en location pour 60 mois à partir de seulement 95$ par semaine. Il n'y a aucun acompte à verser. Passez vite chez Kia Lévis pour en faire l'essai.
Kia Lévis.
Sur approbation du crédit, 16 000 km par année.
Transformez votre journée en jour de casino. Jouez au jackpot, jetable en direct et plus. Découvrez les machines à sous les plus populaires comme Book of Dead et Immortal Romance et jouez la roulette au blackjack et à bien d'autres à Casino Days. Ouvert à tous les joueurs 18 ans et plus, ce site vous permet de vous amuser gratuitement. Veuillez jouer de manière responsable.
Découvrez le Grand Crousty chez Benet et compagnie. Un nouveau burger généreux, garni d'une galette de poulet frit, de rondelles d'oignon, de bacon, de laitue, de fromage en grains, de cornichons et d'une sauce ranch épicée. Avez-vous la mâchoire qu'il faut? Disponible chez Benet et compagnie.
Envie de liberté? Encore plus de liberté et toujours plus de liberté? Obtenez-en plus avec les Mazda CX-70 et CX-90 et leur technologie hybride rechargeable qui vous permet de passer de l'essence à l'électricité en toute simplicité. Ou optez pour un modèle hybride léger pour plus d'harmonie entre puissance et efficacité. Moins de temps à la pompe, plus de liberté. Profitez des offres en cours ce printemps pour prendre le volant d'un Mazda CX-70 ou CX-90 hybride. Visitez votre concessionnaire Mazda dès aujourd'hui.
As-tu barré la porte?
Ben oui.
As-tu fermé la porte du garage?
Oui, madame.
As-tu installé des capteurs pour fenêtres, des détecteurs de fumée puis des caméras à résolution HD avec vision nocturne? Puis as-tu prévu des alertes d'activité de carte de crédit, un service complet d'assistance en cas de vol d'identité puis une surveillance du web clandestin pour les menaces en ligne?
Répète donc ça, voir!
Offrez-vous la tranquillité d'esprit. Découvrez comment TELUS peut vous protéger des menaces à domicile et en ligne à telus.com/sécurité. Des conditions s'appliquent.
La légende disait qu'on préparait son retour, qu'il reviendrait en grand, encore plus.
Excusez, le Jeep Cherokee est vraiment de retour. Mmh. En version hybride.
Hybride, c'est historique.
Avec une autonomie
mythique
de 800 km et une consommation réduite
impressionnante.
Et un 4x4 de série.
Le tout nouveau Jeep Cherokee hybride 4x4 2026.
Ce n'est pas une légende urbaine, mais bien...
le retour d'une légende.
À partir de seulement 42 390 $. Venez en faire l'essai.
Chez votre concessionnaire Jeep.
Tous les détails sur jeep.ca.
Vous le savez, des fois, au travail, ça va vite. Les outils changent, les façons de gérer évoluent et les décisions doivent se prendre plus rapidement. Pour mieux affronter ces défis, vivez l'expérience transformatrice en gestion de classe affaires FSA U Laval. Des formations de pointe, des outils concrets, des personnes confrontées aux mêmes enjeux que vous et surtout des spécialistes de haut niveau pour vous aider à mieux comprendre, décider et agir. Rendez-vous au classeaffaires.fsa.ulaval.ca pour découvrir nos formations continues en gestion.
Chez La Tulipe, je fais ce que j'aime. Je profite d'une quantité incroyable de produits soldés. Je découvre une foule de nouveautés partout. Et grâce à mes achats de pêche, mon permis provincial est gratuit. Tout ça en magasin et en ligne chez La Tulipe.
Salut Nissan.
Salut Karine. On commence cette remise de prix?
Oh oui. Alors, le gagnant du meilleur choix sécurité selon l'IHS est... pour une cinquième année, le Nissan Rogue!
Oui, bravo! Faut dire qu'avec son autonomie allant jusqu'à 800 km avec un seul plein, il part déjà gagnant.
Et son offre mérite aussi une mention.
C'est l'événement Mettez-nous au défi. Louez le Rogue S à partir de 0% pour 36 mois. Inclus réduction fidélité de 0,5% pour propriétaires Nissan admissibles. Jusqu'au 30 avril, sur approbation de crédit, des conditions s'appliquent, détails chez Nissan.
Le midi, on en jase. À Boulevard Saint-Denis.
OK, oui, émission On en jase à Boulevard 102.1, ton émission d'actualité du midi. On vient de faire un grand tour sur diminution de la taxe de l'essence, majorité au PLC, première conférence de presse de Christine Fréchette, nouvelle première ministre au Québec, avec Antonine Niacarini. Vous avez été plusieurs à réagir au 418-971-102.1. Vous avez demandé à cette heure que le gouvernement fédéral a baissé la taxe d'essence. Qu'est-ce que... la CAQ va faire? C'est à cette question-là qu'on va répondre avec Gabriel Giguère dans quelques instants. Continuez à interagir au 418-971-102. Vous êtes en feu depuis le début de la semaine. On adore vous lire. Avant de parler à Gabriel Giguère, et avant que je vous parle de la DPJ, cette usine à former des itinérants, Pascal, qu'est-ce qu'on doit retenir dans l'actualité?
Bien, c'est sûr que je vais te nommer l'essence aussi. Hein? Ottawa qui a suspendu cette taxe-là. Il y avait un point de presse ce matin de Mark Carney. Donc, c'est 10 cents le litre sur l'essence de moins pour l'essence régulière, 4 cents de moins du litre pour le diesel. Mesure temporaire, Jean-François, donc on va suivre un peu le tout. On essaie de s'adapter à l'inflation qui est créée par la guerre au Moyen-Orient, la hausse du prix du pétrole qui en arrache énormément à la scène près chez chaque foyer, je pense, au Canada là, en ce moment, puis à l'international, là, dans chacune des sphères de consommation. Christine Fréchette, ben, on parle de panier d'épicerie, d'habitation et de services pour cette nouvelle première ministre qui est à la tête de la coalition Avenir Québec. Ce seraient les priorités. Elle sera assermentée demain, 16h. Les députés de la CAQ vont aussi avoir un caucus en soirée. Ça fait réagir, entre autres parce qu'on se demande qui fera partie de son conseil des ministres. Hier, on jasait dans le caucus à Carini qui aurait peut-être des gens non élus, donc à l'intérieur même du Conseil des ministres. C'est peut-être le cas pour Guy Cormier, ex-grand patron du mouvement Desjardins. Le nom commence à courir. Il a fait un témoignage vidéo en hommage à François Legault en fin de semaine, dimanche. Et c'est aussi un genre de lien avec Mme Fréchette parce que le conjoint de Mme Fréchette, Guy Nadeau, c'est le vice-président de Desjardins Entreprises à Montréal. Ça fait beaucoup de chair autour de l'os, mais est-ce que ça s'avère? On saura dans les prochains jours.
Oui, normalement, début de semaine prochaine qu'on devra en savoir plus sur ce conseil des ministres.
La Ville de Québec a annoncé un gel temporaire de 150 jours sur l'ajout de nouveaux établissements d'hébergement touristique et c'est pour les hébergements commerciaux dans certaines zones du Vieux-Québec et ses abords. Période qui doit permettre à la Ville de dresser un portrait un peu plus précis là, de la situation dans le secteur. On veut amorcer au besoin les travaux de modification réglementaire requis. Ça concerne ce qui est Airbnb. Donc, on précise qu'on va s'appuyer sur la subvention fédérale de plus de 2,1 millions de dollars. Ça a été récemment obtenu dans le cadre de fonds pour l'application des restrictions sur la location de courte durée. Il y a eu des plaintes, Jeff, pour un festival assez populaire, celui de Igloo Fest sur la place Jean-Béliveau.
Ça, ça n'a juste pas d'allure. Hey, j'entends le bruit à Sainte-Foy et à Beauport. Ils voulaient vous rire de moi, là.
Une trentaine de plaintes qui ont été faites à la Ville de Québec et ça se retrouve dans l'actualité. Donc, c'est pour le festival de musique et pour l'édition de cette année, 2026. On ajoute au bilan au moins une soixantaine de dossiers. Ça a été dirigé vers le SPVQ. C'est ce qu'on a appris du Journal de Québec aujourd'hui. Les associations étudiantes, les syndicats de l'Université Laval font front commun contre la rectrice Sophie Damour. On veut de la transparence, on trouve qu'il n'y en a pas, que c'est opaque. Donc, on réclame la tenue d'États généraux sur l'avenir de l'Université Laval à l'aube des grands projets immobiliers, puis après des décisions qu'on a jugées douteuses de la direction. Et c'est ce que rapportait Radio-Canada.
Je vous le rappelle, on va creuser ce dossier-là avec Maxime Coulombe, président du syndicat des professeurs de l'Université Laval tout à l'heure. C'est pas la première fois qu'on entend dire que c'est très opaque autour de Mme Damour. Donc, on va creuser ceci. Là, on se plaint notamment de changement de politique de stationnement, l'abolition des cafétérias étudiantes et les deux projets immobiliers qui sont dans les cartons à l'Université Laval.
Nouveau recul de Desjardins. En ce qui concerne l'affichage des soldes de cartes de crédit sur Accédé, il pensait peut-être pas en faire autant jaser. Pas facile. Ils ont le vent d'en face. C'est après de nombreuses réactions négatives des clients là, qu'on a décidé de peut-être revoir notre façon de faire, mais on avait dit on ne changera rien. Finalement, ben, l'institution prévoit modifier le fonctionnement des cartes co-détenues et ça va désigner un seul détenteur principal. Donc, c'est aussi pour les comptes partagés, là, les comptes conjoints et tout ça. Il y aura un seul détenteur principal responsable du solde, tandis que l'autre deviendrait utilisateur additionnel avec un accès limité. Il y a des inquiétudes qui ont été soulevées. Les cartes continuent de fonctionner comme avant, en ce moment, sans changement pour les utilisateurs. Beaucoup de choses à revoir du côté de Desjardins. Puis, je vais terminer avec Donald Trump, le président américain qui a supprimé son image qui était générée par l'intelligence artificielle, qu'il représentait sous les traits qui ressemblaient à Jésus, là, on va se le dire.
Clairement.
Puis l'image a été publiée sur son réseau Truth Social. Vivement critiqué, on a supprimé ça. Il a dit qu'il se représentait plutôt en tant que médecin. À vous de voir ce que vous croyez, ce que vous voulez. Mais j'ajoute à ce dossier quelque chose d'important dans ce blocus qui est décrit comme étant genre dangereux et irresponsable par la Chine. Donc, la Chine qui entre dans tout cela, Jeff, ça hausse le ton envers les États-Unis dans la guerre au Moyen-Orient avec le blocus de Donald Trump d'hier sur les ports iraniens. Et on dit que c'est complètement irrationnel d'avoir fait ça de la part des États-Unis. C'est un peu une revendication dans le cessez-le-feu de Donald Trump. Puis moi, ce que je voyais dans les médias internationaux, qui n'est pas encore été rapporté ici, Jeff, c'est qu'il y aurait peut-être eu un genre de déploiement d'armes de la Chine vers l'Iran pour venir en aide militaire à l'Iran en ce moment, qui est un peu le maillon faible dans cette guerre-là.
On revient ici au Québec et au Canada avec Mark Carney qui a annoncé justement une diminution de 10 sous au niveau de la taxe de l'essence. Donc, on va sauver de l'argent dans votre portefeuille. Et pour en parler avec nous, on a Gabriel Giguère de l'Institut économique de Montréal, analyste politique senior. Gabriel, comment vas-tu?
Ça va très bien, JF. Merci.
Cool. Excellent. Gabriel, on écoute les explications de François-Philippe Champagne sur comment on a réussi à faire ce tour de force sans trop venir piger dans le gros déficit que le gouvernement fédéral a déjà.
On a vu qu'on avait plus de revenus au niveau du pétrole. Fait qu'on dit, regardez, on va utiliser cette marge-là qu'on a pour donner un coup de main.
Moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, youpi! Remplir mon minivan maintenant, c'est à peu près 130$. Je trouve ça beaucoup trop cher. Donc, j'ai dit merci, M. Carney. Deuxième pensée, tu le sais, Gab, et t'es comme moi, on se connaît là-dessus. J'ai tout de suite pensé à notre déficit monstrueux. Alors là, de savoir ça, que c'est grâce à des gains qu'on fait sur le pétrole qu'on produit au Canada, qu'on refile ça aux contribuables, je trouve que c'est intelligent comme manœuvre.
Absolument. Là, pour bien comprendre comment ça, le Canada fait plus d'argent, c'est pas tout à fait la même dynamique qu'au Québec. Mais très concrètement, le prix du baril du pétrole a beaucoup augmenté. Ça explique notamment la hausse à la pompe. Et ça, concrètement, quand les entreprises pétrolières vendent leur baril de pétrole beaucoup plus cher, ben leur revenu augmente. Et la taxe, plutôt l'impôt sur les sociétés d'environ 15 % au fédéral, ben faut comprendre que comme leur revenu augmente beaucoup, c'est des milliards de plus dans les poches du fédéral. Donc, par extension, plus d'argent dans les coffres du fédéral, possibilité de suspendre les taxes sans avoir un effet très, très lourd sur le déficit. Rappelons-le, 78,3 milliards projetés en novembre 2025. Donc, tu as raison, JF, c'est une bonne mesure pour s'assurer d'en donner un petit peu plus dans les poches. Tu parlais d'un minivan. Là, quand on pense, mettons, à un VUS assez populaire au Québec, là, on parle d'un RAV4, tu regardes la tank, 55 litres environ, 10 cents, ben c'est 5,50. Puis en plus de ça, quand tu ajoutes la TPS, la TVQ là-dessus, ben tu dépasses environ, tu es aux alentours de 6 $. Donc, ça fait pas une grande différence, mais je pense que ceux qui nous écoutent là, vont se dire, ben ça fait une petite différence, puis tant mieux si ça peut réduire le prix, parce qu'on va se le dire, ça fait mal pour tous les consommateurs au Canada, notamment aux Québécois.
Hey, on va tous les prendre, les petits 5, 6, 7 piastres qui traînent à terre. Il n'y a pas de doute là-dessus. Gabriel, avant de voir cette mesure-là pour être plus permanente, dis-moi donc, ça va mettre de la pression sur la CAQ et Christine Fréchette qui vient d'être élue comme première ministre?
Je pense que ça va mettre de la pression. Puis ça, c'est... Il y a une double pression, en fait. C'est-à-dire que ça, c'est la pression de dire, regardez, le fédéral fait leur part. Là, nous autres, on en arrache en tant que consommateurs. Les Québécois en arrachent à faire leur plein. Eux, ils font leur part. Qu'est-ce que le Québec fait? Qu'est-ce que le Québec a fait en avril 2025 quand le fédéral a suspendu la redevance sur les combustibles de 17 sous? Est-ce qu'on a suspendu la taxe indirecte de la bourse carbone sur les raffineries qui augmente artificiellement le prix? Est-ce qu'on l'a suspendu quand ils l'ont aboli en novembre 2025? Absolument pas. Là, évidemment, je parle du fédéral. Donc, au Québec, on n'a rien fait. On a fait des discours politiques. Au fédéral, on a suspendu des choses, que ce soit temporaire ou permanent. Puis évidemment, on s'entendra, Jeff, moi, je préfère quand c'est des suspensions permanentes parce que le gouvernement, il est très bon pour dépenser, pas assez pour économiser. Mais le gouvernement du Québec et Mme Fréchette, devant ce cas de figure-là, devraient se poser la question, comment on agit? Il y a plusieurs façons d'agir, Jeff. La taxe sur les carburants, 19,2 sous, il y a également quelque chose qu'on pourrait faire assez rapidement au Québec et qui n'aurait pas d'impact sur l'enveloppe budgétaire ou plutôt sur le déficit projeté de 8,6 milliards. Ce que Mme Fréchette pourrait faire avec son équipe, c'est de suspendre l'application de la bourse carbone aux raffineries pour venir mécaniquement baisser les prix parce que ce ne sera pas refilé aux consommateurs.
Et ça j'adore comme idée.
Sur le fonds vert.
Et ce serait très bien pour nos agriculteurs, entre autres, qui vont bénéficier de cette réduction-là du fédéral.
Ce serait très bien pour les agriculteurs, ce serait bon pour les consommateurs, pour les automobilistes québécois. Puis évidemment, on peut aller plus loin parce que rappelons-nous ce que Mme Fréchette, elle a dit lors de la campagne contre M. Drainville. Bien, elle expliquait qu'il va y avoir je suis d'accord avec elle sur ça, là, qu'il va y avoir plus de revenus liés à la TVQ. Bien, c'est des centaines de millions de dollars si on annualise là, en fonction de la différence de coûts depuis le début de la guerre en Iran sur l'essence. Bien, ça, on voudrait potentiellement leur donner aux Québécois. C'est une bonne chose, mais il y a plus de leviers disponibles pour Mme Fréchette et il faut voir des actions concrètes. Je pense que la bourse carbone en est un facilement accessible pour elle. Et sans avoir un impact trop important sur les finances publiques. Alors, il va falloir qu'on agisse rapidement parce que ça fait mal. Et je tiens à le dire, ça également, on va bientôt avoir les chiffres de l'augmentation des prix généraux au Canada, notamment au Québec, pour mars. On se rappelle que mars, c'est là qu'il y a une augmentation importante du prix de l'essence. Donc, on va le voir là, rapidement. Le discours public, quand on va avoir ces chiffres-là, c'est OK. Là, on en arrache sur le plan énergétique. Ça va également avoir des impacts aussi sur l'alimentation.
Gabriel, tu parlais tantôt que ça te dérangeait que ce soit temporaire, là, comme suppression de taxes et tout ça, mais ça donne pas justement un genre de jalon au gouvernement de voir quels impacts ça peut avoir puis de s'ajuster versus l'enlever de façon assez drastique puis pas être capable de revenir en arrière si jamais on a à s'ajuster. C'est pas clairvoyant, par contre.
Politiquement, je comprends tout à fait le propos, puis je le comprends, tu sais. C'est un excellent pas dans la bonne direction, je devrais dire, parce que au final, aujourd'hui, à l'heure où on se parle, c'est là que ça coûte 1,90. Je le sais pas dans 2 ans. Fait que je suis content de voir la suspension temporaire. Je pense néanmoins que l'essence coûte cher. Et c'est surtout ça, là. Je pense que oui, ça serait bien que ce soit réduit parce que globalement, je suis pour la réduction des taxes. Je pense qu'on est assez ponctionné sur le plan fiscal, mais surtout les Québécois. Puis c'est pour ça que je dis, puis je suis content que Jeff aborde la question, qu'est-ce qu'on fait au Québec? Une fois qu'on agit au fédéral, qu'est-ce qu'on fait ici? Parce qu'ici, je rappelle que la taxe sur les carburants est plus élevée qu'en Ontario, parce qu'ici, on n'a pas eu de réduction de la pression du prix de l'énergie l'année dernière. Qu'est-ce qu'on fait ici? Qu'est-ce que Mme Fréchette propose? Parce que c'est une chose d'être en campagne puis de faire des promesses. Je le dis souvent, les promesses politiques n'engagent que ceux qui les croient. Nous, ce qu'on veut voir, c'est pas de la promesse. Ce qu'on veut voir, c'est des politiques publiques concrètes qui permettent de faire respirer les Québécois et les Québécoises.
C'est capoté parce qu'on voit automatiquement un lien entre le fédéral puis le provincial maintenant. Puis parfois, tout ça s'enchaîne jusqu'au municipal. Toi, tu fais quoi si moi je fais ça? Toi, tu fais quoi? Parce que c'est même pas bien défini. À maintenant, ce que les paliers gouvernementaux doivent faire puis comment ils doivent le faire. Gabriel, tu dis ça. Aussitôt qu'on a su de Mark Carney qu'il y avait une baisse à la pompe pour le prix de l'essence, les articles qui sortaient de tous les commentateurs, c'est exactement cette question-là qui semble être fondamentale dans le dossier. Le Québec fait quoi? Et c'était une promesse de Bernard Drainville.
Ça va être la grande question parce que vous allez avoir des analystes qui vont vous dire « Oh, c'est bon, il faut reculer, il faut pas reculer. » Mais à la base, moi, je reviens au consommateur. Je pense à l'automobiliste. Je suis pas en train de vous dire « Non, mais faut arrêter d'utiliser son char, c'est pas bien. » Voyons donc, tu sais, quand tu habites en région, est-ce que tu as le choix d'arrêter d'utiliser ton char si tu habites à Alma puis il faut que tu ailles travailler à Jonquière? La réponse est non. Puis de toute façon, je suis pas dans la business de dire aux gens comment vivre. Par contre, je suis dans celle de dire « Si le gouvernement va en chercher trop dans vos poches, c'est pas au gouvernement de l'avoir. » Et donc, dans ce contexte-là, la réduction de taxes, c'est justement de redonner plus aux gens, de s'assurer de l'abordabilité. Puis on n'oublie pas également, là, cette réduction-là de la taxe d'assises de 10 sous pour l'essence, c'est bon pour les consommateurs, pour les automobilistes, mais également, qu'as-tu sur le diesel? Les belles tomates qu'on a sur dans nos étalages, les concombres. C'est des camions, c'est du diesel, donc c'est bon même, c'est bon pour tout le monde, pas juste pour les automobilistes. J'espère que la nouvelle première ministre va en prendre bonne note et va agir rapidement sur la question et pas nous dire « Inquiétez-vous pas, je m'engage dans plusieurs mois à reverser. » Ça prend du concret, ça prend des suspensions de taxes et ça le prend rapidement.
Clairement. Gabriel Jugard, analyste politique senior à l'Institut économique de Montréal. Comme dernière question pour toi, on voit que le Canada est capable de donner ce congé de taxe aux citoyens parce qu'on exploite le pétrole, c'est-à-dire nos ressources naturelles, et on fait plus de revenus. C'est un message aussi pour le Québec de commencer à extraire ses ressources naturelles.
Je pense que c'est clair que le Québec devrait arrêter là, cette folie des dernières années, des 15 dernières années où progressivement, on a mis des bâtons dans les roues de l'industrie. On a de la ressource. Il faut s'assurer de bien cartographier celle-ci puis d'arrêter de mettre des bâtons dans les roues. Si on a des entrepreneurs qui sont prêts à créer de la richesse, à créer des emplois, puis je le répète tout le temps, mais c'est très important, moyenne de salaire en 2025 du secteur gazier et pétrolier, 155 000 $. Il y a peu de personnes qui cracheraient sur ce salaire-là. Donc, concrètement, on gagnerait également à exploiter nos ressources naturelles. J'espère aussi que la première ministre va y réfléchir parce qu'elle l'a faites flotter l'idée en matière de gaz naturel et elle n'a pas voté pour la motion ou contre la motion du Parti québécois il y a quelques semaines. Alors, il faut que ça revienne de l'avant.
Gabriel Jugard, toujours un bonheur de te parler. Merci infiniment pour ta fine analyse.
Merci à vous.
Salut, Gabriel. Gabriel Jugard de l'Institut économique de Montréal. On revenait sur cette baisse du prix de l'essence. Et on va vraiment vérifier dans les prochains jours, Pascal, les décisions de Christine Fréchette.
Puis j'allais te dire, on va aussi vérifier le prix à l'essence pour notre voiture. Tu sais, toi, tu parlais de ta minivan. Combien t'as dit que ça te coûtait actuellement?
134 $, puis ça m'en coûtait 96 avant le début du conflit.
Fait que tu t'en souviens. 96 à 134. Combien de fois par semaine? Une fois...
Ben c'était une fois, ben j'avais du hockey, là, je vais peut-être m'entraîner une fois aux semaines et demie.
Okay. Allons-y avec 134 par semaine, on arrondit, ouais. OK. Puis on s'en reparle dans deux semaines, le temps que ça s'ajuste, le temps que ça apparaisse. On va faire un genre de décompte. Avec les auditeurs, là, 88-971-1021, ça vous coûte combien en ce moment, là, mettre de l'essence dans votre voiture? Êtes-vous capable de faire un comparable avec avant la guerre qui a été déclarée au Moyen-Orient? Est-ce que ça va nous faire sauver de l'argent, oui ou non? Est-ce qu'on va le voir sur l'épicerie aussi, où il n'y a pas grand-chose qui va bouger au niveau des commerçants? Ils en ont perdu de l'argent, eux aussi. Ouais. Ils vont-tu vouloir le rattraper?
C'est ce qu'on va valider dans les prochaines semaines, c'est certain.
À Boulevard 102.1, jusqu'à 14h, on en jase.
Vous êtes toujours à l'antenne de Boulevard 102.1, c'est l'émission On en jase. Je veux prendre le temps avec vous... dans l'émission maintenant de parler d'enjeux de société et de sujets d'actualité qui m'intéressent particulièrement. Et aujourd'hui, j'ai été très touché par un texte de Mylène Moisan dans le journal Le Soleil qui raconte un jeune homme qui sortait des centres d'accueil. Donc, il avait été placé en centre d'accueil à 14 ans. Il est sorti à 18 ans, comme plusieurs jeunes de centre d'accueil à 18 ans. T'es rendu considéré comme un adulte, donc on met tes choses dans un sac de vidange, puis on t'envoie vivre ta vie d'adulte. Pour moi, Pascal, ça n'a jamais fait de sens. On a reçu régulièrement l'émission du matin, Nancy Audet, qui nous en parle, que crée justement un organisme pour prendre soin de ces jeunes-là issus de...
On en jase. Jusqu'à 14 heures, on en jase.
J'avais oublié de mettre un stop. Donc, issu de la DPJ, et également, on a déjà reçu un enfant qui provenait de la DPJ, qui était parti avec ses sacs de vidange. Et c'était une campagne de financement. Et c'était plus qu'une campagne de financement. C'est une campagne « Apporte ton sac en centre jeunesse » pour que quand le jeune va partir, au moins avoir un beau sac sport, il n'y aura pas des sacs de poubelle. Parce qu'on s'entend, là, si tu avais à partir avec des sacs de poubelle...
Déjà, la honte est dans ton camp. Hein?
C'est épouvantable.
Puis alors, tu t'en imagine vas où? Encore plus. Puis tu sais, oui, puis le coup d'œil que ça donne, on parle du premier jugement. Si ça va chez un employeur, il n'y a rien, il arrive avec ça, il ne sait pas où les déposer. Il y a beaucoup de choses en arrière de ça. C'est pas juste une image.
Jamais vécu en logement, pas eu des parents qui ont appris à cuisiner.
Pas de structure.
Pas de structure, pas organisé. Puis
des
là, ben,
des
dit,
choses émotionnelles peut-être pas corrigées aussi. Tu sais, ça vient des fois avec des problèmes psychologiques parce que justement, tu n'as pas eu cette enfance avec le nid douillet.
Puis quand on regarde également au niveau d'Éric Boulay, qu'on a reçu en entrevue le matin dernièrement, il nous dit qu'au niveau de l'Aube-Rivière, c'est 70 % des bénéficiaires qui sont là pour une première fois. Et parmi ça, ben, les jeunes âgés de 18 et 25 ans sont en très grand nombre. Fait que c'est ce qui m'amène à dire que la DPJ ne fait pas du tout son travail avec ces jeunes-là. Puis j'appelle ça, moi, on est une usine à itinérance. Puis là, quand on se dit « Hey, l'itinérance est en hausse, comment ça, qu'est-ce qui se passe? » Bien, c'est un point majeur, ça, parce que Éric nous le disait encore vendredi dernier, il en sort plein de l'itinérance. Il en renvoie plein en logement, que ce soit avec le projet Porte-Clés ou le projet Prisme. Mais il en rentre plus que j'en sors.
Puis c'est là où c'est important d'aller voir c'est quoi l'épicentre du problème, la base du problème.
Exactement, et travailler en prévention avant tout et non pas toujours en correction.
Mais as-tu espoir de ça? Parce que les dernières conversations qu'on a eues sur les changements au sein de la DPJ puis la façon dont on voit qu'il y a plein de bonne foi. On peut pas être contre la vertu, mais il manquait de critères d'application, il manquait de clarté quand on posait les questions.
J'ai pas du tout espoir à l'heure actuelle. Je trouve que la DPJ est une organisation qui est très fermée sur ses propres pratiques et qui prend pas soin d'étudier adéquatement les recommandations de l'extérieur. Tu vois, on a juste à prendre le rapport de la commissaire Laurent. Bon, c'était sorti l'an passé. C'était Martine Desjardins à la tête de ce groupe de chercheurs-là. Il y avait à peine 20 % des recommandations 5 ans plus tard qui avaient été mise en place du côté de la DPJ. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut continuer à en parler des médias et il faut continuer à soulever cette problématique-là parce que, je le répète, c'est rien contre les gens qui travaillent à la DPJ. J'ai des amis qui travaillent à la DPJ, je les adore, font un travail exceptionnel, mais l'organisation de la DPJ à l'heure actuelle, c'est une usine à itinérance. C'est eux autres qui envoient le monde en majorité dans la rue. Puis c'est ce qui fait en sorte que la crise de l'itinérance est incontrôlable actuellement. C'est un facteur, selon moi, très prédominant. On a bien beau me parler de crise du logement puis de hausse du coût de la vie, mais nos jeunes qui sortent d'un centre jeunesse, on les pogne, puis excusez-moi l'expression, on les calisse dans la rue, puis on oublie qu'ils sont là.
C'est pas facile pour les intervenants. Hein?
Non, du tout.
Ils vivent encore plus froidement et difficilement
ben oui,
que nous.
Hey, ils ont créé un lien pendant 4-5 ans avec ces jeunes-là, puis les disent, bon, ben, c'est correct, t'as eu 18 ans, prends tes affaires, là, tes deux sacs de vidange,
je peux plus rien faire pour toi. Puis eux, ils les connaissent. Ils savent, là, ils connaissent leurs démons, leurs difficultés, leurs défis.
Oh, émotionnellement, c'est très, très, très difficile. J'ai mis Mathias Turcotte sur le dossier, il est avec nous. Mathias, comment vas-tu?
Ça va très bien.
Cool. Mathias, je l'ai mis sur le dossier, Pascal, parce que je voulais qu'il regarde. Y a-tu des alternatives ailleurs que dans notre petite ville de Québec sur lesquelles on pourrait s'inspirer pour faire en sorte que la fille qui va sortir de l'escale demain matin ou le gars qui va sortir du gouvernail demain matin avec ses sacs de vidange, il pourrait s'en aller en quelque part qui l'aiderait. Et Mathias, Ça existe.
Ça va potentiellement exister. Là, je vais vous parler d'un projet qui pourrait être mis en place au cours des prochaines années à Montréal. Avant ça, Jeff, je veux revenir sur ton expression « usine à itinérance ». Puis le terme n'est pas exagéré. Je vais vous sortir quelques données concernant les jeunes de la DPJ qui vont vers l'itinérance. Le tiers des itinérants au Québec actuellement, sont d'anciens jeunes de la DPJ. Donc, un itinérant sur trois. Puis, je ne vous apprends rien.
Aucun sens.
En vous disant que présentement, ce n'est pas le tiers des jeunes qui sont à la DPJ.
Hey, c'est-tu un constat d'échec de notre système, Pascal?
C'est une nouvelle en soi.
On est censé les aider, puis on en prend 33% pour les pitch dans la rue.
C'est après qu'on se dit qu'il n'y a pas de lacune. Là,
ah, ou... épouvantable.
35 maintenant, d'autres statistiques, là, 35% des jeunes de la DPJ, donc encore une fois, on est sur un jeune sur trois de la DPJ qui est sans diplôme. Donc, on va s'entendre encore une fois, la majorité qui est sans diplôme se retrouve en situation d'itinérance avant l'âge de 21 ans. Donc, un jeune qui sort sur trois qui n'est pas diplômé, ben, se ramasse dans la rue avant l'âge de 21 ans.
Aïe, aïe.
Puis là, on parle de diplôme secondaire.
Diplôme secondaire. Donc, vraiment, aucun diplôme. C'est 11% des diplômés qu'eux se retrouvent à la rue. Donc, on voit déjà
une bonne différence
lorsqu'ils réussissent à avoir un diplôme. Puis justement, je vais vous parler d'un projet Agora Déclic qui a été cofondé par Benoît Bernier, avec qui je me suis entretenu. C'est un projet d'hébergement pour 130 élèves de 18 ans de la DPJ. Donc, l'objectif, c'est de les accompagner à leur sortie, justement, de la DPJ, dans leurs études, les loger et leur donner les ressources nécessaires à la fois en santé mentale et en éducation. Puis, justement, je me suis entretenu avec un cofondateur qui m'expliquait que la raison première qui l'a poussé à vouloir aller de l'avant avec un projet de ce type-là, c'est les nombreux constats d'échec de la société dans l'accompagnement des jeunes qui sortaient de la DPJ.
Notre projet, c'est le constat que ben, les ressources et les processus, autant au niveau des soins en santé mentale, de l'accompagnement psychosocial que de la scolarisation, ça ne correspond pas aux besoins de ces jeunes-là, puis le système les échappe. Ou on ne peut pas s'attendre à ce que quelqu'un qui est en état de survie dans sa tête, qui a subi des traumatismes importants dont il ne s'est pas encore guéri, puisse avoir de la disponibilité pour quoi que ce soit qui ressemble à une insertion professionnelle, un retour à l'école ou un fonctionnement social qu'on va mettre en guillemets régulier. C'est pas possible.
C'est tellement bon ce qu'il explique. T'es, mettez-vous dans la peau de quelqu'un qui s'est fait battre pendant 5, 6, 7 ans par un père violent. Il se retrouve en centre d'accueil à 15 ans, essaye de se développer du mieux qu'il peut, a énormément de traumatismes. Il y a des éducateurs, des psychologues qui sont là pour l'aider. Puis à 18 ans, il perd tout ce filet social-là puis il se retrouve seul dans la rue. C'est sûr qu'il ne retourne pas aux études. C'est sûr qu'il n'est pas capable de se loger. C'est sûr qu'il a de la misère à se trouver une job. C'est une personne que la société l'a désorganisé.
Tu sais, on va faire un parallèle complètement stupide. Là. Toi, Jeff, quand t'es parti en appart, t'étais dans un foyer assez douillet.
Ben oui.
T'as eu une enfance
oui.
qui se respecte beaucoup plus que celle
ben oui.
qu'on entend pour des clairement. Usagers de la DPJ, on s'entend. Il y a plein d'affaires que t'as dû apprendre sur le coup.
C'est clair.
Il y a plein d'affaires que tu savais pas, toi.
Ben oui.
Imagine à quel point tu pars de loin quand t'as pas été aimé à la hauteur de ce que t'es.
Ben oui.
Que t'as pas été encadré, parce que des fois, ils sont très aimés, mais ils sont pas encadrés parce que les parents, ben, ils ont pas ces ressources parentales-là. Ils savent pas comment être un bon parent, parce que des fois, c'est de père en fils, tu sais. C'est fascinant, là. Puis là, t'es envoies, puis tu leur dis, débrouille-toi du jour au lendemain. Pas d'argent.
Épouvantable.
Pas de salaire. Pas d'études. Pas de ressources sociales. Mm-hmm. Des fois, pas d'amis.
Il ne faut pas se demander pourquoi ils ne s'en sortent pas par la suite.
Puis exactement.
Ce projet-là, qui est une merveilleuse initiative, pourrait recevoir une première cohorte en 2028. Donc, on parle quand même dans quelques années.
On va souhaiter que ça existe.
Si les choses réussissent à aller de l'avant. Là, la question à se poser, est-ce que ce projet-là pourrait devenir un exemple à travers le Québec si jamais ça s'implante bien et que ça fonctionne? Vous voyez, M. Bernier, pour lui, l'important, c'est qu'on commence qu'on n'a pas une approche généraliste. Donc, il ne voit pas nécessairement son projet comme quelque chose qu'on doit implanter au Québec. Pour lui, l'approche doit rester spécialisée selon les jeunes.
Penser à une généralisation demain matin de pratiques comme celle-là dans les systèmes actuellement, moi, j'y crois pas. Ça, c'est un. Deux, est-ce qu'on n'est pas non plus à se dire, ben, il va falloir que les structures s'adaptent et se transforment pour être capable de répondre spécifiquement aux besoins de ces jeunes-là. Donc, peut-être que laisser de côté certaines pratiques généralistes pour en développer éventuellement des plus spécialisés, c'est sans doute quelque chose qui va être envisageable.
Quel bon point, se spécialiser chez les jeunes adultes.
Oui,
pas prendre en considération qu'à 18 ans, tu es autonome.
Puis selon les milieux, là, puis selon les régions, pouvoir mettre des ressources différentes aussi selon les besoins de la région. Pas dire, hey, ça fonctionne à Montréal, on va l'implanter au Saguenay. C'est pas les mêmes réalités, donc d'être capable de s'ajuster au fur et à mesure. Mais veux pas, ce qui bloque dans la réalisation de ce type de projet-là, forcément, c'est le financement, parce que ça a certains coûts. Présentement, on attend le financement du provincial. Puis pour vous donner une idée, là, on parlerait de quelques dizaines de millions pour construire les installations nécessaires. Et par la suite, ce serait 231 000 $ par jeune que ça coûterait au cours des 3 années pour par la suite avoir un diplôme. C'est quand même certains coûts. Si on met ça en perspective dans la société, on évalue le coût d'un ancien jeune de la DPJ à, en moyenne, 750 000 $ lorsqu'il se retrouve dans la rue. Les services sociaux, par la suite, il se retrouve sans diplôme. Donc, il finit par jamais travailler et payer d'impôts et justement contribuer à l'État. Ce qu'on pourrait faire si on prend ces jeunes-là, qu'on investit et par la suite, ils réussissent à avoir un diplôme, un travail, etc. Mais il faut avoir une vision sur le long terme pour ça, ce qui manque parfois au gouvernement, on va s'entendre. Je me suis par contre entretenu avec Gabriel Nadeau-Dubois également, qui est porte-parole côté éducation pour Québec solidaire. Et lui, il m'a dit qu'il était très optimiste que le gouvernement provincial allait embarquer dans le projet.
Tous les gouvernements cherchent des moyens de réduire l'itinérance. Et tous les gouvernements voient bien que ce qu'on fait en ce moment, ça ne marche pas. Donc moi, je refuse de baisser les bras. On va continuer à travailler avec les ministres concernés. C'est un projet qui ne demande pas d'argent neuf au gouvernement. Hein. C'est un projet qui va piger dans des enveloppes qui existent déjà. Donc oui, on est conscient que les moyens sont limités en ce moment, mais ça va nous coûter pas mal plus cher au Québec de s'occuper de ces jeunes-là une fois qu'ils sont dans la rue.
Moi, ce que je retiens, c'est au niveau économique, on est gagnant, puis au niveau social, on va être gagnant à 100 000 à l'heure.
Tu sais, c'est là-dessus que je vais faire du chemin, là, ce que tu dis, ce que lui vient de dire.
Ben oui.
Là. Un, c'est une priorité parce que c'est une roue qui tourne, même en éducation, là. Les enseignants débordés dans les classes, peut-être par des enfants qui sont désorganisés ou qui vivent des affaires à la maison. Puis je reviens toujours au sapristi de même point après la commission, Laurent, quand tu as dit la communication. Je comprends qu'on se doit d'être discret puis respecter les vies hein, de ces gens-là puis de pas tout dire. Mais quand un agent, un intervenant de la DPJ a une relation avec l'enseignant de l'enfant, est capable de les suivre en communauté aussi, avec les parents, avec... Au moins, tout le monde a l'information, puis on est capable de ne pas taper sa tête du jeune à une journée où il est désorganisé par n'importe quoi qu'il a vécu à la maison ou un nouveau centre d'accueil ou peu importe la complexité. Ça, c'est pas réglé, mais ça va régler dans l'éducation, dans la santé, dans l'économie, dans l'itinérance, dans tellement de choses. La sécurité, parce qu'il y a des gens qui ne sont plus en sécurité avec l'itinérance.
Il faut revoir notre structure, parce que tu sais, je redonne mon expression, là, c'est une usine à fabriquer l'itinérance.
C'est
à l'heure
une bonne
actuelle.
Expression, j'ai l'impression.
Il faut vraiment revoir nos structures pour les aider. Rapidement, Matt, en terminant, est-ce que ça pourrait s'implanter en Capitale-Nationale?
Oui, bien... Reste à voir si le projet lui-même va voir le jour à Montréal, parce qu'on attend toujours la finalisation du financement de la part du provincial. Du côté du projet, on est toujours confiant que ça va venir avec l'arrivée de la nouvelle première ministre, peut-être que ça va s'accélérer. Du côté de la capitale nationale, il y a déjà certains programmes qui sont en place parce qu'on a une certaine obligation quand même d'accompagner ces jeunes-là. Visiblement, elle n'est pas toujours respectée, comme qu'on pouvait noter justement dans la chronique du Soleil ce matin. On disait qu'il fallait garder les documents des jeunes de la DPJ durant 25 ans, donc jusqu'à l'âge de 43 ans. Puis pour le jeune qui s'était malheureusement enlevé la vie à 23 ans, ben on retrouvait déjà plus ces documents-là quand ça faisait 5 ans à peine. Donc, ces obligations-là ne sont pas toujours respectées. Par contre, je me suis entretenu avec Geneviève Larivière, qui est à la direction du programme Jeunesse au CIUS de la Capitale-Nationale. Puis elle m'explique que sans nécessairement faire le même projet que, par exemple, Agora Déclic, on a déjà certains programmes qui sont en place présentement. Par exemple, Zénith, qui est un programme de 108 logements sociaux et abordables, dont 31 logements sociaux et abordables qui sont réservés à des jeunes de la DPJ qui font la transition vers la vie adulte. Et elle me dit que pour l'instant, ce programme-là fonctionne très bien.
Tu sais, dans le Zénith, actuellement, C'est un projet qui est fait avec l'OMH, mais on a du monde qui sont du communautaire, qui sont présents, qui emmènent leurs couleurs d'intervention. On a des intervenants de PQJ qui ont aussi qui appartiennent au service de la protection de la jeunesse, mais qui est quand même un service qui est volontaire pour les jeunes. Et on a des travailleurs de milieu qui sont là, puis on a beaucoup d'organismes du milieu puis des qui sont présents. Fait que ça offre quand même une diversité pour les jeunes d'aller chercher le service qui leur répond en fonction de leurs besoins puis qu'est-ce qu'ils sont comme jeunes.
Très content de voir qu'il y a quelque chose qui existe en Capitale-Nationale. Maintenant, continuons de parler de cette problématique d'itinérance-là. On s'en va en campagne électorale dans quelques semaines. Il faut absolument que les partis politiques se positionnent pour trouver des solutions plus tangibles à l'itinérance, autre que de dire « Hey, vous savez, il y a la crise du logement. Hey, vous savez, le coût de la vie a augmenté. Hey, vous savez, c'est complexe. » Il faut faire des actions concrètes. La courbe augmente bien trop en itinérance. Et surtout chez les jeunes. Rappelle-nous, combien de pourcentage de jeunes qui sortent de la DPJ s'en vont en itinérance?
C'est 35 % des jeunes de la DPJ non diplômés qui se retrouvent à la rue avant 21 ans.
Ça n'a aucun sens, aucun bon sens. Je peux pas croire que notre société bienveillante en est rendue là.
Et qu'on s'en rende compte juste là.
C'est ça. Après la pause, Donald Trump, on va jaser de lui en Jésus-Christ avec Rémi Villemur, notre
médecin.
Ben moi, j'ai vu Jésus.
Non, mais lui, il dit que c'est ton médecin.
OK. Ouais. On va demander à Rémi, il l'a vu comment, lui. Dans quelques instants, vous le voir sans dehors.
Avec le prix de l'essence qui augmente 6. Sur approbation de crédit, des conditions s'appliquent. Détails chez votre concessionnaire Volkswagen.
Transformez votre journée en jour de casino. Jouez au jackpot, jeux de table en direct et plus. Découvrez les machines à sous les plus populaires comme Book of Dead et Immortal Romance et jouez la roulette au blackjack et à bien d'autres à Casino Days. Ouvert à tous les joueurs 18 ans et plus, ce site vous permet de vous amuser gratuitement. Veuillez jouer de manière responsable.
Le printemps s'installe et à l'Institut Diva, on en a profité pour se refaire une beauté. Nouveau site web, boutique en ligne revisitée, tout est en place pour mieux prendre soin de vous. Institut Diva, coiffure, massothérapie, esthétique. InstitutDiva.com.
Envie de plus de fiabilité? Obtenez-en plus avec la qualité de conception remarquable de Mazda. Grâce aux soins apportés à chaque détail, Mazda vous procure plus de tranquillité d'esprit et de plaisir de conduire avec sa garantie à kilométrage illimité de série sur tous ses véhicules. Prenez la route sans compter les kilomètres. Découvrez tous les nouveaux véhicules Mazda 2026, dont le tout nouveau Mazda CX-5 2026 entièrement redessiné, et profitez de nos offres ce printemps. Visitez votre concessionnaire Mazda dès maintenant.
Pour joindre la gang en ondes par téléphone, 780-1021, texto 971-1021.
Boulevard 1021.
Bon, je vais y aller directement au but, là. Je voulais qu'on se rencontre parce que, ben, j'ai vu ton historique Internet.
OK.
T'es accro?
Ben, c'est-à-dire que c'est quand même...
Fais-toi-en pas, là. Moi aussi, j'y vais plusieurs fois par jour.
C'est un petit peu trop d'informations pour moi, ça, patron.
Ben voyons, sois pas mal à l'aise. À ce qui paraît, tout le monde du bureau va sur Mercado.
Oh, OK. Tu parles de Mercado?
Ben oui. Tu pensais que je parlais de quoi?
Mercado.fm. Vos économies commencent ici.
La puissance inégalée du GMC Sierra, vous la connaissez déjà. Sa capacité de remorquage, sa durabilité légendaire aussi. Mais saviez-vous que pendant le mois du camion, c'est le meilleur moment pour vous procurer un Sierra? Ben maintenant, vous le savez. Profitez du mois du camion pour louer le Sierra 1500 Pro Graphite 2026 pour l'équivalent de 158 $ par semaine pendant 27 mois. Valeur au détail de 71 735 $, versement initial de 4 699 $, 58 paiements aux deux semaines de 316 $ et 20 sous du kilomètre après 16 000 km. Détails sur gmccanada.ca.
Allô, c'est Marie de l'Entrepôt de la Réno. Le printemps, c'est la saison des projets. Une salle de bain complète à moins de 2 000 $, c'est possible chez l'Entrepôt de la Réno. 9030 John Simon, sortie Chauveau sur Henri IV. EntrepôtDareno.com.
Moreau PRS poursuit sa croissance. En plus de sa succursale de Québec, une toute nouvelle place d'affaires ouvrira très bientôt sur la Rive-Sud. Restez à l'affût. Moreau PRS, 40 ans d'expertise et maintenant encore plus près de vous.
Profitez d'offres exceptionnelles chez Desjardins Autocollection. En avril, obtenez le Maverick 2026 XLT hybride en location 60 mois à 99 $ par semaine et le F-150 STX 2026 à 119 $ par semaine en location 36 mois. Pour les meilleures offres, passez-nous voir chez Desjardins Autocollection.
On en jase. Jusqu'à 14h, on en jase.
Émission d'En jase jusqu'à 14h, c'est votre émission d'actualité. On reviendra sur la météo un petit peu tantôt, mais ça va être de la pluie pour aujourd'hui et demain, mais des températures plus clémentes. Donc, la neige va fondre. On reviendra tantôt plus en détail parce que là, Pascal,
dis-moi,
c'est l'heure de parler du Messie. Le nouveau Messie est né.
Moi, j'ai pas la foi, hein, fait que peu importe c'est qui le Messie, je suis pas là. Surtout quand le Messie se traite aussi de médecin. J'ai beaucoup d'interrogations, là.
Donald, le Messie est apparu sur Truth Social et pour en parler avec nous, on a Rémi Villemur, animateur au 99.5 Montréal. Rémi, comment vas-tu?
Ça va très bien.
Rémi, t'es-tu comme moi? T'as-tu vu Jésus-Christ ou t'as vu un médecin?
Alors, j'ai vu Jésus-Christ. Et d'ailleurs, si ça avait été un médecin puis que ça avait été aussi clair que qu'il ne l'a prétendu que c'en était un, il n'aurait pas enlevé sa publication. Donc, je pense qu'il savait très bien ce qu'il faisait. Par contre, là, je pense qu'il est temps qu'on arrête de dire que Trump est un conservateur puis qu'il est le porte-parole de la droite conservatrice. Parce que ça, on l'entend depuis 10 ans. Hein. Trump, oui, c'est le porte-parole de la droite conservatrice. Mais un conservateur, là, par définition, ça veut conserver certains codes, certaines traditions qui sont issues du passé. C'est ça, un conservateur. Quand on dit que quelqu'un est un conservateur, on dit souvent, si on est langue sale, qu'il vit dans le passé, qu'il ne veut pas avancer, qu'il ne veut pas faire face à la modernité. Or, Trump, depuis 10 ans, puis dans les 2 dernières semaines, c'est assez évident, il défie tous les codes de la pensée américaine, tous les codes de la tradition américaine. Moi, je ne peux plus l'associer au conservatisme. Un conservateur, il y a des chasses gardées quand tu es un conservateur. Il y a des affaires qui sont intouchables. Et avec Trump, on a plus affaire à un agitateur, à un punk, d'une certaine façon, qu'à un conservateur. Il n'y a plus rien qui est intouchable pour Trump. Pensez, par exemple, à l'histoire. Il réécrit l'histoire. Pensez, par exemple, à la religion, qui est très importante dans le cœur de beaucoup d'Américains. Ben là, il décide de se déguiser comme ça avec l'intelligence artificielle. De cette façon, il ne respecte pas les civilisations à l'étranger. Il menace d'anéantir la civilisation iranienne. Ce n'est pas très conservateur, ça.
Non, en effet.
Donc là, il va peut-être falloir changer le vocabulaire. Ça ne va pas faire l'affaire d'une certaine gauche qui aimait ça dire conservateur, mais ça n'en est pas un.
En effet, est-ce que tu es en train de me dire que Donald Trump est un anarchiste?
Non, parce que ben non, mais l'anarchisme, c'est associé à la gauche. Là. Je pense pas qu'on puisse dire que Trump est un gars de gauche là, quand même. Sauf que moi, je suis pour l'idée qu'il s'est inventé un certain genre. T'sais, oui, il puise certaines inspirations dans le passé. Il y a des présidents qui sont passés avant lui, qui lui ont plus ressemblé. Mais on peut pas le mettre sur l'axe gauche-droite. C'est quelqu'un qui fait un show. C'est quelqu'un qui veut exister. C'est quelqu'un qui veut inventer quelque chose, innover. Donc, il faut, contourner le piège qui consiste à le mettre dans une catégorie. Puis c'est pas bien grave, hein? Il y a des gens qui inventent des affaires. C'est vraiment un ovni. C'est quelqu'un qui nous apparaît de l'extérieur. Puis c'est pour ça qu'il est très difficile à anticiper, parce que quand vous avez quelqu'un qui est de droite, vous étudiez la pensée de la droite, puis vous remarquez certains réflexes. Quand quelqu'un est de gauche, vous faites la même affaire. Procédez au même exercice. Mais avec un ovni, qu'est-ce qu'on fait avec un ovni? On est ébloui. Hein? Puis on ne sait pas quoi faire, puis on ne sait pas si ça va nous tomber dessus, si ça va s'envoler vers là. Fait que c'est pour ça qu'il nous surprend chaque fois, mais de moins en moins quand même.
Il y a des gens qui supposent que c'est un contrôle total de la gestion médiatique, de l'apparence, de la communication, que ce serait quelqu'un d'extraordinairement intelligent probablement sur tout cela, versus un petit ou grand problème narcissique ou de représentation de lui-même ou de repousser les limites. Tu sais, souvent, là, une personne là, qui a beaucoup d'argent, là, qui n'a plus vraiment de barrière, mais va vouloir passer à l'autre étape et aller chercher ce qui est pas ce qui va lui donner un peu d'émotion, là, le pouvoir, la façon de contrôler les gens. On en pense quoi de ton côté, Rémi?
Oh, est-ce que Rémi a figé?
J'ai l'impression qu'on a perdu notre Rémi Villemur par excellence. Montréal,
Rémi,
c'est loin.
1, 2, 3.
Ou c'est Donald Trump qui a arrêté la conversation.
Là, on a de la difficulté avec notre Zoom. Hein, va falloir parler avec nos techniciens parce qu'Alex Laramé aussi a figé dernièrement. Donc, Pascal, tu veux l'appeler, on finira le tout au téléphone. En attendant, je vais vous parler de sport. Ce soir, c'est le Canadien de Montréal qui affronte les Flyers de Philadelphie. Dernier match de la saison régulière pour le Canadien. Les Flyers ont gagné leur laissé s'est passé pour les séries hier en battant en tir de barrage les Hurricanes de la Caroline. Ils vont donc affronter les Penguins de Pittsburgh au premier rang. Pour le Canadien, à l'enjeu, le deuxième rang de la section atlantique. Qu'est-ce que ça change, le deuxième rang de la section atlantique? C'est l'avantage de la patinoire en première ronde. Ça veut dire que si la série s'étire en 7 matchs, ben le 7e match serait à Montréal. Alors, match important pour le Canadien. Tampa Bay joue contre les Rangers demain. Le Canadien doit absolument gagner et doit espérer une défaite du Lightning de Tampa Bay pour pouvoir terminer au deuxième rang de l'association. Tout est réglé pour les séries dans la Ligue nationale, donc il n'y a plus de course aux séries parce que dans l'Est, les Flyers ont réussi à avoir le dernier laissé-passer hier. Et dans l'Ouest, c'est les Kings de Los Angeles qui se sont mérités justement leur laissé-passer. Hier, ils ont 89 points de classement. Ils pointent présentement au 8e rang à un point seulement du Mammoth de Utah. Dans la NBA, aujourd'hui, c'est 2 matchs. C'est ce qu'on appelle la ronde play-in qui va commencer. Le play-in, c'est quoi? C'est que dans la NBA, on a, au niveau du classement, des 7e à la 10e position. On a tout simplement décidé de les inclure en série, mais avec un mini-tournoi qui leur permet d'entrer et d'accéder aux 2 derniers rangs au niveau des séries éliminatoires. Alors aujourd'hui, 19h30, c'est le Heat de Miami contre les Hornets de Charlotte. Le gagnant va se mériter une autre chance d'entrer en série. Le perdant est éliminé. Et du côté de l'Ouest, à 10h, c'est les Suns de Phoenix contre les Trailblazers de Portland. Le gagnant sont laissés passer pour les séries. Le perdant aura une 2e chance. On retourne voir Rémi Villemur. On l'a au bout du fil au téléphone. Rémi, merci de ta patience.
Je suis là.
Peut-être juste fermer ton Zoom si jamais il est encore ouvert parce qu'on entend un dédoublement. Ce que je te disais avant que ça coupe, c'est en fait une question que je te posais. Tu sais, Donald Trump, certaines personnes pensent qu'il est vraiment intelligent puis finalement, c'est plus un contrôle de l'information et c'est exactement ce qu'il fait, où est-ce qu'il s'en va. Les allures un peu désillusionnées, ils sont calculés. As-tu aussi ce pressentiment-là ou tu penses plus qu'on est du côté du narcissisme un peu de la personne puis qu'une personne qui a beaucoup d'argent à un moment donné soit allée chercher plus puis cette fois-ci, on est dans le genre de contrôle qui ne détient pas toujours?
Ben, je ferais juste quand même préciser une chose. Oui, il y a une relation avec les médias, puis oui, les médias parlent toujours de lui, mais je suis pas sûr que les médias renvoient forcément l'image qu'il voudrait projeter. Donc, c'est vrai que on peut être tenté de dire qu'il contrôle l'agenda médiatique parce que à tous les jours, les médias n'attendent qu'il ne fasse qu'un mouvement pour parler de lui, mais enfin, dans l'idéal, il propulserait ailleurs que là. Tu sais, là, il est présenté comme un monstre, puis ça commence à être de moins en moins payant pour lui. Pendant un moment, c'était payant pour lui parce que ça faisait en sorte qu'il y avait une sorte d'ennemi. Il regardait la population américaine qui est anti-système pour dire, regardez ce qu'on dit de nous dans les médias, on nous prend pour ça, on nous prend pour ça. Et ça faisait en sorte que cette base-là électorale était de plus en plus unie. Mais là, on voit que dans les sondages, il commence à épuiser un peu tout le monde. Donc, il y a de plus en plus de gens qui font, oh, OK, c'est beau, là. On voulait qu'il fasse une certaine forme de révolution culturelle, mais là, il s'en va un peu trop loin. Même chose pour l'appareil juridique. L'appareil juridique est contre lui. Quand on dit qu'il contrôle l'appareil juridique, c'est un personnage autoritaire, ben je sais pas, j'ai vu les dernières décisions de la Cour suprême n'allaient pas forcément en sa faveur non plus. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est difficile ça serait tellement plus simple si c'était un dictateur. On pourrait dire que c'est un dictateur, mais c'en est pas un. Il est démocratiquement élu. Les contre-pouvoirs font leur travail aux États-Unis. Les médias sont contre lui. Il n'y a pas de médias d'État. Donc c'est un ovni. C'est pas un dictateur, c'est un homme qui est démocratiquement élu. C'est il y a un culte de la personnalité d'une certaine façon, mais il a réinventé un style.
Alors, on retient ça, Rémi, de ta chronique qui a commencé sur Zoom et qui a terminé au téléphone. Donald Trump est un ovni. J'adore cette expression-là et je vais te la voler.
Ben, elle t'appartient maintenant.
Merci. Hey, Rémi Villemur, on s'en parle jeudi.
Bye-bye.
Salut, bonne émission ce soir. Rémi Villemur sur les ondes du 99.5 Montréal du lundi au jeudi de 18h à 19h et le samedi matin de 8h à 10h. Pascal, tu nous en parlais tantôt dans l'actualité. La foire est pognée à l'Université Laval. Les gens en ont contre l'opacité du régime de Madame Damour, Sophie Damour.
La rectrice du régime, imagine.
Exactement.
On est rendu à dire ça.
Après la pause, dans un instant, on va en parler avec Maxime Coulombe, président du syndicat des professeurs de l'Université Laval. Restez avec nous. Émission d'Angers sur les ondes de Boulevard 102.1, ton émission d'actualité. On analyse également les grands enjeux politiques, les grands enjeux de société. On l'a fait tout à l'heure avec justement la DPJ qui envoie des jeunes à la rue avec leur sac de vidange. Ça se retrouve en itinérance. Il y en a qui passent à l'irréparable suicide. C'est un texte de Mylène Moisan dans Le Soleil. Ça vous a fait réagir énormément au 418-971-1021. 9 degrés pluie pour aujourd'hui. 7 degrés possibilité d'averse pour demain à 30%. 14 degrés de la pluie pour jeudi. Nuageux 13 degrés pour vendredi. Bref, c'est une semaine grise de printemps. La neige va fondre, c'est la bonne nouvelle. Pascal, dans l'actualité, évidemment, on revient sur cette baisse des taxes d'essence annoncées par le gouvernement fédéral. Bonne nouvelle pour les contribuables et automobilistes.
Ben, t'en parles à météo, bonne nouvelle. Maintenant, on va en parler sur les autoroutes, la circulation et surtout votre portefeuille. Bonne nouvelle aussi. On essaie d'alléger un peu le fardeau là, financier que ça a, cette guerre au Moyen-Orient, sur votre consommation d'essence, avec, entre autres, une... Bon, suspension, parce qu'on ne retire pas à 100%, c'est temporaire comme mesure, ouais, de cette taxe sur l'essence. C'est 10 sous le litre d'essence régulier. On était à 4 sous de réduction sur le litre d'essence pour le diesel. Ça va de soi pour vous, ça va de soi pour tout ce qui est transporté en matière de nourriture, de commercialisation, que ce soit pour n'importe quel transport. Vous allez voir peut-être un petit oomph au niveau de votre portefeuille. On va le comparer. Toi, tu disais 134 $ environ par semaine avec ta minivan. On va voir ça dans les prochains jours, mais c'est une suspension de taxe d'assises sur l'essence en vigueur à partir du 20 avril jusqu'au 7 septembre. Fait qu'on a quand même quelques mois assurés, là. Et Ottawa estime à 2,4 milliards $ le coût de cette mesure-là sur le portefeuille canadien. Ça aussi, malheureusement, ben, faut le nommer. Hein? C'était habituellement clairement pour aider. Du côté du Moyen-Orient, justement, on va parler un petit peu plus du blocus de Donald Trump d'hier. On le qualifie de dangereux et d'irresponsable de la part de la Chine. Alors, on l'a haussé le ton vis-à-vis des États-Unis. On voit des alliés qui commencent à se regrouper un peu. Est-ce que c'est une bonne chose? Bien, plusieurs disent que non. L'économie mondiale est déjà durement touchée. Si la Chine a vraiment été portée de l'armement du côté de l'Iran, ça a renforcé leur puissance qui était finalement celle... En négatif. L'Iran avait de la misère à subvenir à tous leurs besoins militaires. C'est ce qui donnait un grand bout de chemin aux États-Unis pour continuer leur pression. Et du côté de l'Iran, c'est le détroit d'Ormuz. Si la Chine s'en mêle et est allée porter de l'équipement militaire, là, on se retrouve avec un petit gros problème pour la suite des choses. Mais ce serait irresponsable et dangereux, c'est ce que qualifie la Chine face aux emprises des États-Unis en ce moment. Il y a Christine Fréchette qui a fait parler aussi aujourd'hui parce qu'on attend son conseil des ministres. Elle sera aussi assermentée demain, 16h. Les députés de la CAQ vont participer à un caucus en soirée. Et ce qu'on a su, c'est qu'il y a des rumeurs comme quoi il y a des gens non élus qui pourraient faire partie du Conseil des ministres, comme Guy Cormier, ex-patron du mouvement Desjardins, au centre de rumeurs depuis des mois. Là, on est vraiment là-dedans par rapport à Christine Fréchette et son Conseil des ministres. Ici, à Québec, je termine avec ça parce que je sais que c'est pour notre prochain invité. Les associations étudiantes et syndicats de l'Université Laval font front commun contre la rectrice Sophie Damour. On dit que c'est pas transparent. On veut une tenue d'État généraux sur l'avenir de l'Université Laval, entre autres pour les grands projets immobiliers, puis surtout parce qu'on a de récentes décisions qu'on a jugées douteuses selon la direction et ce qu'a rapporté Radio-Canada.
Et pour en parler avec nous, on a Maxime Coulombe, président du syndicat des professeurs de l'Université Laval. Monsieur Coulombe, merci beaucoup pour votre disponibilité pour l'émission On en jase ce midi.
Bonjour, M. Fortin.
Monsieur Coulombe, on parle d'opacité de l'administration de Sophie Damour. Il me semble que ce n'est pas la première fois que je l'entends parler. Ça fait plusieurs années que ça dure. Hein?
Oui, ça fait longtemps que ça dure, malheureusement. On est confronté à une administration qui se considère trop souvent comme le patron d'une grande entreprise que la directrice ou la rectrice, plus exactement, de l'Université Laval. Ça entraîne toutes sortes de conséquences inquiétantes là, pour une organisation comme l'université qui a un mandat d'intérêt public.
Oui, là, dans les si on prend juste cette année, cette fameuse nouvelle politique de stationnement, aïe, il y a des étudiants qui ont eu des constats d'infraction pas à peu près.
Oui, puis en même temps, il y a des étudiants qui ont compris que comme c'était un système de vérification qui était surtout pensé pour des voitures stationnées en en parallèle, quand on cachait un peu sa plaque d'immatriculation contre un mur ou contre une autre voiture, soudainement, on était moins contrôlé. Fait que, il y a eu plusieurs problèmes liés au stationnement. Puis, ben, les stationnements, les cafétérias étudiantes aussi, où les étudiants ont perdu la responsabilité de la gestion de certaines cafétérias, des projets de construction sur les fermes, la ferme campus, là, qui est une ferme d'apprentissage puis de recherche. Bref, il y a beaucoup de dossiers qui nous inquiètent beaucoup, puis c'est pour ça qu'on voulait s'asseoir avec l'administration puis enfin comprendre.
Oui, parce que si je fais juste prendre l'abolition des cafétérias étudiantes, ça, dans le fond, c'est des revenus que les diverses associations étudiantes allaient chercher pour par la suite réinvestir, justement, là, dans leurs activités.
Exact. Au lieu d'avoir une compagnie privée qui vise des profits, on avait une organisation étudiante qui baissait ses prix pour permettre à ses membres de pas payer trop cher. Autrement dit, les étudiants payaient moins cher. Et puis d'autre part, quand il y avait des profits qui étaient produits, ben ça retournait évidemment aux associations étudiantes. Fait que c'était gagnant-gagnant en fait pour les assos. Puis là, ben ils sont évidemment extrêmement frustrés, vexés, aussi parce que le système est opaque. On ne sait pas exactement comment la décision a été prise ou sur quelle base ou pourquoi on n'a pas justement privilégié les étudiants, surtout quand on peut démontrer qu'ils sont tout à fait capables de gérer des cafétérias.
On entend qu'ils voudraient avoir un peu plus d'implication là-dedans. On entend qu'ils se sont vus retirer des avantages qu'ils avaient auparavant. Mais il y a vraiment la transparence là, qui est mise en lumière là-dedans, l'opacité, le manque de transparence de la rectrice. Ça s'avère, c'est un gros problème. Mais surtout, pourquoi on manquerait de transparence en ce moment?
Ben, c'est-à-dire qu'il y a des projets immobiliers colossaux qui sont prévus par l'université. Vous le savez, l'université, là, c'est près de 2 milliards par année de budget et en recherche et en financement. C'est comme une ville dans une ville. Il y a beaucoup de gens qui travaillent là. C'est très gros. Et puis, ben, pour diversifier ses sources de revenus, l'université a en tête de construire des logements. Puis on peut reconnaître la raison pour laquelle elle veut faire ça, c'est évident. Lorsque le gouvernement donne moins, ben, ça permet de te garantir un certain mode de fonctionnement, un certain budget de fonctionnement. On peut comprendre pourquoi on fait ça. Il y a même des endroits ailleurs sur la planète, au Canada même, comme en Colombie-Britannique, où il y a des universités qui l'ont fait. Ça a très bien fonctionné. Mais plus près de nous, on peut penser à l'UQAM avec l'îlot voyageur. On sait la catastrophe que ça a été comme projet immobilier. Il y a des centaines de millions qui ont été engloutis dans ça. Et puis, ben nous, on a le droit d'être inquiets parce qu'on ne sait pas exactement qu'est-ce qui est pensé. On ne sait pas comment ça va être fait. Et nous, ce qu'on dit à l'administration, c'est pour ça qu'on appelait des états généraux, c'est, écoutez, on va faire venir des experts. On en a des experts aussi ici. On va s'asseoir. Vous allez nous expliquer vos processus de décision, puis on va faire comme on devrait faire à l'université. Écrime, on vise l'excellence partout à l'Université Laval. Est-ce qu'on peut pas viser aussi l'excellence dans la gestion? On va s'assurer que les choses sont bien faites, puis on va faire partie de la réponse. Autrement dit, on va faire partie de la réflexion.
Et là, ce que je comprends, c'est que vous avez une fin de non-recevoir de la part de la rectrice, Mme Damour.
Ben tout à fait. Écoutez, nous, ce qu'on demandait au départ, c'était des états généraux. Là, on a eu plusieurs rencontres de discussion. L'université en voulait pas. Elle voulait pas qu'il y ait de recommandations à l'issue de ça. Mais tu sais, je veux dire, on va pas s'asseoir pour juste parler. Là, c'est pas de recommandations au bout de ça, ça marche pas.
On va faire une rencontre. Je vais vous expliquer ce que je veux faire. Taisez-vous. Je suis la dictatrice de l'université.
C'est quoi l'avantage de faire ça? C'est-tu parce qu'on pourrait cacher des choses?
Ouais. Ben écoutez, moi je veux juste comprendre, là, je veux pas, tu sais, sérieusement, il y a plusieurs hypothèses possibles, je sais pas exactement, mais là, le point de départ, là, le degré zéro de l'histoire, c'est, est-ce qu'on peut pas savoir comment les choses fonctionnent? Est-ce qu'on peut pas avoir des états généraux où on va faire venir du monde, on va s'entendre, on va avoir des recommandations? Puis ben, quand on a proposé ça à l'administration, ils étaient évidemment pas chauds à l'idée. Et puis ce qu'ils ont fini par faire, c'est de précipiter une sorte de forum qui va avoir lieu demain, là, à midi, une séance de 2 heures d'information. Mais entre le projet que nous on avait de compréhension des processus, de participation aux décisions, d'expertise, puis ça, je veux dire, on joue pas dans la même ligue, là, c'est pas la même catégorie du tout. Alors, ça va pas, là. La proposition aussi, une des raisons pour lesquelles nous, on voulait faire ça à l'automne, c'était ça l'affaire, on voulait faire ça à l'automne parce que là, c'est la fin de session. Je sais pas si vous vous rappelez sans doute de vos années d'étudiants, là, mais quand on est rendu en avril, les étudiants sont occupés à leur fin de session, les profs préparent leurs examens, rattrapent les séances. C'est pas le moment d'organiser un événement aussi important que celui-là. Donnons-nous du temps pour bien le faire. Fait qu'on avait dit, faisons ça à l'automne. C'est parfait, ça.
Monsieur Coulombe, on se fait une promesse. Tenez-nous au courant du résultat, justement, de vos différentes sorties médiatiques et voir si la pression que vous mettez à l'heure actuelle sur la rectrice Sophie Damour va porter fruit, parce que je suis entièrement d'accord avec vous. C'est beau d'avoir des projets immobiliers, c'est beau de diversifier nos sources de revenus, puis on souhaite que nos universités le fassent pour être encore moins dépendants du gouvernement, mais il faut bien faire les choses.
Je ne saurais dire mieux. C'est au courant, promis.
Oui, on s'est au courant, M. Coulombe. Merci beaucoup. Passez une belle fin de journée. Merci. C'est ça, Pascal. C'est qu'on... Moi, je suis pour le projet, mais je suis entièrement d'accord avec M. Coulombe qui dit « Hey, one minute, là. C'est parti tout croche. T'as un projet qui part tout croche. Il finit tout croche, puis il finit par te coûter de l'argent au lieu de t'en rapporter.
Oh, on a vu ça au gouvernement, j'ai l'impression, moi.
Ah ouais, pas mal, hein?
Mais il y a aussi le fait que, tu sais, l'université, c'est une mini-société qui nous apprend tellement à chapeauter des projets, à gérer des enveloppes budgétaires. Si t'es dans des comités, des choses comme ça. Les associations étudiantes acquièrent énormément de compétences qui vont leur servir. Pourquoi est-ce que, si l'université, c'est une mission d'éducation et sociale, on mise pas encore plus là-dessus?
Je te rejoins tellement
sur
ce point-là.
C'est intelligent.
Ben, ce qui réclame, c'est un processus éducatif qui devrait avoir lieu dans une université près de chez vous. Elle tombe bien, celle-là, près de chez nous, c'est l'Université Laval.
On n'est pas dans une entreprise privée où vient du patronat, là.
C'est ça.
On est là pour l'éducation des
jeunes. C'est le patron qui met ses propres billes dedans, là.
On peut surveiller.
Oui, exactement. Je suis entièrement d'accord avec toi. Courte pause à Boulevard 101. On termine sa séance. Part après la pause.
Sœur. On en jase.
Je préviens, on jase.
Oui, puis s'il y a bien quelqu'un qui jase à la station, c'est Denis Gravel. Et il a commencé hier à vous présenter cette nouvelle série de podcasts sur les grands événements. Hier, on revenait sur la tuerie de l'Halloween avec le photographe Steve Jolicoeur. C'est à 19h à chaque lundi. Ça se retrouve sur notre page YouTube dès le lendemain. Donc, allez vous abonner à notre page YouTube BLVD 102.1 pour voir le tout. La semaine prochaine, ça sera Cédric Bélanger, journaliste au Journal de Québec. Et ça concernera le Festival d'été de Québec. Pascal, on commence déjà à informer les automobilistes de la grande région de Québec. Henri IV sera fermé en fin de semaine.
Parle-moi de ça, d'une communication en avance,
ben
ou semi,
oui,
sur toute la semaine. On est mardi. Bravo au ministère des Transports et de la Mobilité Durable. Parce que oui, Henri IV va être fermé en fin de semaine. On démolit le viaduc du chemin Sainte-Foy. Ça va créer de la congestion. C'est une démolition, une reconstruction d'un viaduc. Pensez-y. Donc, travaux qui ferment un tronçon de l'autoroute Henri IV, portion du chemin Sainte-Foy, inaccessible aux automobilistes jusqu'en novembre. C'est important de le dire. C'est un viaduc du chemin Sainte-Foy qui est là depuis 75 ans. Fait qu'il faut, oui, le remplacer. Malheureusement, ça amène à ces fermetures-là. Donc, ça va être entre la sortie de l'autoroute Duplessis et boulevard du Versant Nord, maintenu jusqu'au lundi 20 avril, 5h30 pour le moment. Autoroute Henri IV qui va être aussi inaccessible en direction sud entre la sortie de l'autoroute Charest et le chemin des Quatre Bourgeois pour la même période.
19h ce soir sur les ondes d'RDS, Canadiens Flyers à l'enjeu. Le deuxième rang de la section atlantique pour le Canadien. Ils ont besoin d'une victoire ce soir et une défaite du Lightning de Tampa Bay contre les Rangers de New York demain. Le retour de Denis s'amène sans Denis, avec Véro Bergeron, Audrey Pinchot et Antonine Iaccarini. Nous, on se reparle demain à midi. Passe une belle fin de journée, Pascal Sévin.
À demain.